Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité. Il est 8h pile sur les ondes de Galère et on est ravis de vous accueillir, et ce jusqu'à 10h. Anthony au micro, accompagné évidemment de Richard. On salue l'absence notre cher Christian qui sera absent a priori quelques semaines. Voilà, on le salue évidemment. On vous rappelle qu'on est audible sur le 88.4 de la bande FM, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C. Le standard, vous le savez, depuis quelques petites semaines, n'est pas disponible. Donc, vous ne pouvez pas réagir au standard. N'hésitez pas à réagir par le biais du réseau habituel et notamment de mon numéro de téléphone. Vous en avez l'habitude depuis désormais plus de 18 ans. Donc, n'hésitez pas. Avis convergent, divergent, peu importe. La parole est libre sur les ondes de Radio Galère. Avant de saluer mon cher Richard et évidemment les auditrices et auditeurs, et notre invité qui est déjà en plateau avec nous, je vous livre un petit peu le sommaire. 3-4 minutes, on va faire le point notamment avec Richard sur les journées du jour. Le sommaire, donc j'y viens. On a dans 3-4 minutes, on a le plaisir de recevoir un écrivain pour lequel on a eu un coup de cœur, Groé Cassi, qui est avec nous, qui va nous parler de littérature fantastique, science-fiction, l'imaginaire, le fantasy. Le premier tome a déjà été lancé, le deuxième tome est sorti le mois dernier. On va en parler, c'est un univers atypique, particulier mais extrêmement accrocheur, et c'est donc dans 3 minutes sur les ondes de Radio Galère, et ce jusqu'à 8h40. 8h40, pause musicale, on enchaîne avec le dossier du jour, à savoir le volet social et emploi. On recevra tout simplement la mission locale de l'étang de Berre pour parler du forum emploi et alternance, avec donc la responsable du pôle ressources. On aura également un conseiller en insertion sociale et professionnelle. Ce forum a lieu la semaine prochaine et vient nous donner un petit peu les grands axes de ce forum emploi et alternance qui aura lieu le mercredi 30 avril. Et puis on conclura notre magazine d'actualité et d'information avec le volet culture, et notamment Denis Baum, auteur-compositeur, ancien professeur de musique. Il représente l'association Terre de Chansons. Il sera accompagné de Nouria Nehari et il vient de nous parler d'un nouveau projet qui aura lieu dans 15 jours, le 9 et 10 mai, à l'Ouvre-Boîte à Aix, le théâtre de l'Ouvre-Boîte, pour nous parler de Canciones Urgentes, un programme envers l'éducation, la musique, les enfants, résister en chanson. Voilà un petit peu tout l'univers artistique. Et c'est donc de 9h30 à 10h. On va donc évoquer, mon cher Richard, les journées du jour. Mais avant ça, je te salue, mon cher collègue.
Eh bien, auditeurs, auditrices, bonjour. On a la chance d'avoir Anthony sur le plateau.
Je ne sais pas si c'est une chance. Hein.
Eh bien, je crois que oui.
Ah, je pensais que tu parlais pour moi, pour notre invité.
Non, c'est
évidemment,
pas pour toi.
Évidemment.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur.
Génial.
Alors, on ne pouvait pas mieux tomber que d'avoir un romancier formidable, que vous allez découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, ce qui sera rare. Mais donc, c'est sa journée, c'est la journée du livre, c'est la journée des droits d'auteur. Et je crois qu'il va être satisfait.
Tout à fait, on a même surpris notre invité.
Grâce à ça, eh bien, la culture se développe. Voilà, c'est tout fait pour agrémenter les possibilités de réussite dans ce domaine. Voilà.
Et merci en tout cas, Richard, de l'évoquer, puisque si tu ne le fais pas, parfois ces journées-là, elles s'oublient et elles se perdent.
Justement, et c'est bien de les rappeler.
En direct sur les ondes de Radio Galère, 8h05, on y vient. Notre invité, tu l'as pas nommé, mais je vais le faire évidemment. Groé Cassi est avec nous, écrivain, romancier sur la littérature fantastique, science-fiction, imaginaire, fantasy. On pourrait lui coller différentes étiquettes, mais en tout cas, il est spécialiste de ce domaine-là. Bonjour Groé Cassi, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galère.
Allez, bonjour Anthony, bonjour Richard. Déjà, première bonne nouvelle, c'est la journée des droits d'auteur, je l'ignorais, donc merci Richard pour cette info.
Oui, c'est une journée dans ta profession qui est vraiment essentielle.
Oui, exactement.
Grâce à ça, bon, les gens peuvent développer la culture.
Et c'est important justement de l'évoquer en ce jour, donc mercredi 23 avril. On va faire un petit topo avec vous, Groé Cassi, en tant qu'écrivain. Vous êtes sur Aix, vous êtes alors évidemment passionné par l'écriture et passionné par la lecture depuis fort longtemps. Un portrait intéressant Et vous allez même vous développer derrière, mais en tout cas pour donner un petit peu les grandes lignes à nos auditrices et auditeurs, vous étiez jusqu'en 2019 directeur commercial dans une boîte, donc j'ai envie de dire que il n'y avait pas forcément de lien de cause à effet entre les deux univers, à savoir le volet de la direction commerciale et le volet de la littérature. Ça nous est souvent arrivé, et je remercie Barbara Bosquet, j'en profite, qui a permis cette connexion-là aujourd'hui de vous avoir sur les ondes de Radio Galère Gros et Cassis, qui nous permet cette connexion. Parfois, Barbara nous envoie des comédiens, parfois des metteurs en scène, parfois des entrepreneurs, parfois des écrivains. Donc aujourd'hui, Barbara Bosquet nous a envoyé Gros et Cassis. Et donc, pour évoquer un petit peu ça, depuis 2019, vous êtes mis à la littérature, de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction. On sait que, par exemple, on a reçu des comédiens qui étaient professeurs des écoles et puis qui sont devenus comédiens, des anciens ingénieurs qui sont devenus également comédiens, d'autres qui travaillaient à l'usine et qui ont eu des rôles, notamment dans le volet culturel ou de l'intermittence du spectacle. Qu'est-ce qui a fait, Gros et Cassis, que vous êtes passé, en tout cas, de directeur commercial, avec certainement une sorte de projection, de stabilité professionnelle, à ce volet-là, à cet amour et cette passion pour la littérature fantastique? Et puis, comment on prend le risque aussi?
Là, je m'interpose, parce que qu'est-ce qui a fait ça? Ben, c'est son talent. Voilà. si on veut faire ça sans talent ou passion, eh ben, on n'y arrive pas. Maintenant, bon, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé là?
Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait d'études littéraires. Hein. J'ai fait des études dans le commerce. Mais déjà, tout petit, j'avais déjà le goût de la lecture. Déjà, quand j'étais au collège, déjà, j'étais pas un rat de bibliothèque, mais disons que j'allais pas mal chercher des bouquins à la bibliothèque. Et à l'époque, je lisais beaucoup de grands classiques de la littérature française, Zola, Balzac, etc. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de dire en 6e, 5e, je lisais du Zola, parce que c'est quand même un univers assez sombre. Donc, je pense que j'étais peut-être dépressif à l'époque. Je sais pas. Non, là, c'est pour la petite blague. Mais bon, voilà, ça m'a donné...
C'est vrai que c'est un monde atypique. Et parfois, il y a ce cliché-là. Certains élèves, je parle de l'adolescence, qui peuvent aussi se replier, ou peut-être d'ailleurs s'émanciper, en tout cas personnellement. Mais souvent, quand on est... passionné par ce genre de livre, ben on s'enferme un petit peu. Bon, pour autant, on peut découvrir de très belles choses. La preuve, c'est que vous maîtrisez à la fois la langue de Molière et l'écriture aussi, parce que c'est bien beau d'être passionné. Si on ne sait pas écrire et si on n'a pas de talent, ça va être très compliqué de pouvoir œuvrer, de pouvoir développer cette sensibilité artistique, Gros et Cassis.
C'est exact. Ça permet d'acquérir beaucoup de vocabulaire, et déjà très, très tôt, quoi. Donc après, on peut s'en servir après. Alors pourquoi je suis passé à l'acte si longtemps après? Bah, c'est un peu un petit défi personnel. Voilà, moi, j'aime bien tout cet univers, ce que j'appelle en gros l'imaginaire, où dedans je mets la science-fiction. Bon, la dystopie, on en reparlera. Le fantastique, la fantasy, etc. Même le polar à la limite du surnaturel, comme peut le faire par exemple Jean-Christophe Granger. J'ai voulu un petit peu m'affranchir des clichés habituels de ce genre de littérature, où on retrouve toujours un petit peu les mêmes codifications. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de renouveler un petit peu le genre en plaçant la dystopie au centre d'une réflexion sur la possibilité d'un monde meilleur. Voilà, c'est cet univers que j'ai créé. C'est un petit peu un mélange de ma propre expérience de lecteur, de ma personnalité, de mon éducation, de ma sensibilité. Voilà, et j'ai puisé à travers tout ce que j'avais lu avant dans le fantastique.
Alors justement, ça, oui, c'est intéressant, Gros et Cassis, parce qu'on parle des inspirations. Comment on peut situer votre ADN, littéraire? Et pour les auditeurs et autrices qui prenaient l'émission en cours, est-ce qu'on peut dire que Gros et Cassis, il a écrit, donc, on va y venir, hein, avec Bizertland, qui est le tome 1, le tome 2, Castelland, qui est sorti le mois dernier. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, et là je vais faire le cliché réducteur, et je sais que c'est pas la bonne réponse, mais c'est pour que nos auditeurs le sachent, est-ce qu'on peut dire que c'est du Harry Potter, du Hunger Games? Est-ce qu'on peut faire des comparatifs avec des séries, par exemple Netflix, Prime Video? Voilà, pour vous situer un petit peu, artistiquement parlant.
Alors, c'est vrai qu'il faut un petit peu rentrer dans le détail, parce que j'écris de la science-fiction, mais dans la science-fiction, il y a ce qu'on appelle la dystopie.
Alors, parlez-nous de la dystopie, ouais. et si on peut décrire, la dystopie, c'est une sorte presque d'oxymore, mais de l'utopie par pas par négative, mais justement par le le paradoxe ou un petit peu le, enfin voilà, le côté atypique.
C'est ça. En gros, la dystopie, c'est l'opposé d'une utopie. C'est une société imaginaire. Alors, toujours, on la projette dans le futur. Hein. Elle est présentée comme idyllique en apparence. Mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que derrière, il y a une réalité qui est beaucoup plus oppressive et un petit peu indésirable. Donc, il y a des caractéristiques assez fréquentes de la dystopie qu'on retrouve justement dans ce que vous citiez, Anthony, des séries ou des films comme ça va parler à tout le monde. Hein, si je dis Hunger Games, si je dis Divergente ou si je dis 1984 de George Orwell ou Le Meilleur des Mondes.
Voilà,
Big Brother, etc. Donc, en fait, les caractéristiques d'une dystopie, c'est souvent un gouvernement totalitaire ou autoritaire, la perte de l'individualité, les citoyens sont constamment surveillés, il y a de la propagande, de la censure, la technologie est souvent utilisée pour contrôler et opprimer. Et
la terreur un petit peu aussi qui fait partie un peu de...
La terreur un petit peu, exactement, la terreur, l'inégalité sociale.
Ouais. Et ça, c'est pas nouveau.
Alors, quand je dis ça, bah, je fais pas mal de dédicaces dans le librairie. Quand je présente mon livre, les gens me disent « Mais vous nous parlez de maintenant oui. » dans tout ce que je viens de dire.
C'est pas faux.
Oui, ouais. Ça reste presque intemporel.
Ça reste presque intemporel.
Oui, c'est vrai.
Sauf que les dystopies, en général, ça sert souvent d'avertissement face à des sociétés actuelles. Voilà. Donc, en fait, on utilise la dystopie pour critiquer des sociétés actuelles en disant « Attention, si on va dans cette voie-là, vous voyez ce qui pourrait nous arriver. » Voilà. Donc, la dystopie, on va dire, la plus célèbre, hein, c'est 1984 de George Orwell. Hein, voilà.
Évidemment, qui a plus de 40 ans, fameuse année, puisque c'est mon année de naissance, donc on ne peut pas l'oublier, évidemment. Gruecassi, un mot, et évidemment, Richard va derrière vous poser des questions, 8h13 pardon, sur les ondes de Radio Galère, toujours en direct avec vous. Comment est venu, en tout cas, au-delà de l'affection, la passion que vous avez pour le volet du fantastique, de la science-fiction, comment on arrive à écrire le tome 1, il fait 425 pas, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Bizertland, on est bien d'accord. Mm-hmm. Et donc le tome 2 qui est sorti le mois dernier, comment on arrive à écrire autant? Combien de temps ça prend? Est-ce qu'on fait des recherches? Est-ce qu'on est uniquement dans l'inspiration et dans, j'allais dire, dans la liberté créative, ou est-ce qu'on prend des codes, on récupère des éléments, on s'inspire de tel ou tel film, de telle ou telle écriture? Voilà, ça c'est, je trouve ça extrêmement intéressant.
Alors, l'inspiration, moi, quand j'étais plus jeune, je pense que ça parlera peut-être à pas mal de lectrices et lecteurs, je lisais beaucoup Barjavel, je ne sais pas si ça vous parle, La Nuit des Temps, Le Voyageur Imprudent, Ravage, voilà. Et Pierre Boulle, peut-être ça parlera moins. Alors Richard, Pierre Boulle.
Pardon.
Pierre Boulle.
Moi, ça ne me parle pas. Est-ce que ça te parle, Richard?
Non, pas du tout.
On a le droit de ne pas connaître.
C'est l'auteur de La Planète des Singes.
Ah oui, ok.
Ah voilà. Ben voilà, là oui.
Voilà, donc ça vous parle davantage. Donc c'est vrai que La Planète des Singes, on imagine le blockbuster américain. Bon, c'est avant tout un auteur français, hein, de la même période que
Dans ces histoires-là, ça finit pas très bien, quoi. C'est la fin du monde, mais pas très bien.
C'est ça, bah, c'est des
dystopies. Est-ce que c'est la même thème chez vous, si ça finit mieux?
C'est pas que ça finit, ça finit pas vraiment. En fait, l'idée, c'est de confronter le lecteur à la réalité de nos modèles de société actuels. C'est-à-dire que moi, je prends pas parti, en fait. Je décris une situation, je mets en scène des personnages, des lieux, des sentiments, et c'est au lecteur après de se dire effectivement est-ce qu'on va dans le bon sens ou on va pas dans le bon sens, avec sa propre éducation, ses propres sentiments, voilà.
Quand on fait autant d'écriture, autant de pages, est-ce qu'on arrive à maintenir le lecteur en haleine?
Alors,
comment on fait?
Oui, alors c'est des techniques.
Ça doit être difficile, ça.
C'est des techniques d'écriture. Hein. C'est un peu comme quand vous regardez une série ou un film. Il y a toujours des moments, un peu d'action. Après, derrière, on passe à des moments un peu plus calmes. Il y a toujours un peu des twists, des choses comme ça qui font que.
Il y a toujours un peu de suspense.
Oui, toujours un peu de suspense qui maintient le lecteur en haleine. Et même à la fin du premier tome, les lecteurs vont découvrir d'ailleurs un chapitre caché qui est après la fin. Il y a quelques pages blanches et il y a un chapitre caché, bon je le dis. Hein,
ça colle à votre univers en fait.
Tout à fait. Et derrière, ça va donner envie de lire le 2 puisqu'on a envie de savoir ce qui va se passer après.
Voilà. Il y a les deux livres sont sortis à un écart de combien de temps ?
Alors,
combien on met de temps pour écrire ? Voilà,
oui,
ça aussi,
combien on met de temps pour écrire ? Alors, je dirais qu'il faut à peu près un an, voilà, entre la lecture, la relecture, la correction, avoir un livre qui est à peu près abouti, et encore que quand je le relis maintenant, j'ai encore envie de changer, de modifier des choses.
Ça, c'est le côté perfectionniste de l'écrivain, peut-être.
C'est jamais terminé, en fait, c'est ça le problème.
C'est ça, c'est tous les écrivains se doutent de... et c'est bien de ce qu'ils ont écrit, relisent et relisent et relisent. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on relit, eh bien, on a un doute, voilà.
On
c'est
un
c'est
mot,
bien de
oui.
faire ça, parce que c'est le propre de ce métier, hein, de vérifier, de reprendre, etc. Et ce qui fait les réussites de livres.
Oui. Eh ben alors celui-là, le premier, je l'ai écrit, on va dire, en un an. Et le deuxième a été beaucoup plus rapide à écrire. J'étais très inspiré. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, c'est les personnages qui prennent vie eux-mêmes et qui vivent leur propre aventure.
Oui, donc vous prolongez, en fait, à travers le personnage, on peut développer un environnement, une vie, puis une projection, peut-être aussi en âge, en évolution. Et en fait, c'est pour ça que vous estimez que c'est plus facile à développer.
C'est plus facile à développer parce que les personnages, ils vivent leur vie. Moi, je suis comme un spectateur devant mon clavier. Et je les regarde vivre et en même temps, je retranscris ce qu'ils vivent. Donc en fait, c'est pour ça que le livre, je ne dis pas qu'il s'écrit tout seul, mais disons que les personnages vivent leur propre vie. Et ça me permet de...
Non, mais c'est écrit parce que vous avez une imagination structurée et débordante. Donc c'est pour ça que vous arrivez à le vivre bien, parce que dans votre imagination, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Ça déroule, quoi.
C'est vrai, c'est ça.
Donc,
c'est
ça. Alors, juste,
oui, un mot également avec les éditions, parce qu'on sait que c'est pas facile d'être publié. On parle du premier tome, donc c'est la fameuse saga Land. Hein, d'ailleurs, on parle de décalogie. Vous avez un article de La Provence qui dit que c'est une décalogie, je cite, pleine de promesses pour qui aime la littérature fantastique, entre Hunger Games et Le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est un petit peu situé comme ça. Comment, justement, vous avez développé, puis comment on arrive à séduire aussi les éditions, parce que vous étiez à l'époque, moi j'ai vu l'édition Baudelaire, aujourd'hui, entre le Bizerland et Castelland, il y a eu aussi un changement d'édition. Comment ça se passe tout ça ? Expliquez-nous un petit peu là.
Alors, c'est vrai que quand on écrit un premier livre, on ne sait pas quoi en faire. On dit que voilà, j'ai écrit un livre, maintenant qu'est-ce que j'en fais ? J'ai 400, 500 pages. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, c'est quand même facile. Donc, oui. On contacte des maisons d'édition. C'est hyper simple. Hein. On joint une pièce jointe, hein, en l'occurrence le manuscrit, hein, et on attend.
Ok. Et vous l'avez fait à plusieurs maisons d'édition ?
Ah oui, on a fait plein. Et il y en a deux qui m'ont dit bah, ça peut nous intéresser, donc, notamment Baudelaire. Donc,
qui est quand même une belle édition.
Oui, c'est une belle maison d'édition. Hein, oui. Ils sont basés à Paris, ils ont une antenne à Lyon. Et donc Baudelaire, voilà, je suis parti avec eux. Le livre a bien marché. J'ai eu le premier mois un bel article, effectivement, ce que vous disiez, Anthony, sur La Provence, qui a un peu boosté les ventes. Et après, bon, au fil des rencontres, j'ai rencontré une autre maison d'édition plus locale, Luna Édition, qui était basée à Vitrolles. Donc j'ai réédité le tome 1 sous une nouvelle couverture avec des corrections à l'intérieur.
Et, parlez un petit peu plus fort,
oui.
S'il vous plaît, Gros et Cassis. Voilà.
Oui, je sais pas trop.
On puisse bien capter vos...
Ouais,
propos.
D'accord. Et pour le tome 2, encore la nouvelle rencontre. Donc, une très très belle boîte d'édition assez récente.
Et
qui s'appelle Hero Édition.
Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas poursuivi avec l'ancienne maison d'édition, sans rentrer dans les détails, hein, on ne parle pas de l'aspect financier, parce que c'est
ouais.
aussi...
C'est, on va dire, la liberté artistique. Voilà, la liberté artistique. Parce que c'est vrai que les auteurs, ils sont... Bon, on écrit un manuscrit, mais après, on peut nous imposer une couverture, on peut nous imposer de supprimer des paragraphes ou des choses qui sont peut-être pas, voilà, qui plaisent pas forcément la ligne éditoriale de la maison d'édition. Et avec Hero Édition, j'ai trouvé une totale liberté. Voilà,
à Vitrolles, vous dites ?
À Vitrolles,
voilà. Hero Édition.
H-I-R-O édition, voilà.
À Vitrolles. On aurait pu croire que c'était plutôt des mangas, mais pas du tout.
Ils font tout, hein, manga, BD, roman. Ils font même, ils peuvent faire du dessin animé. Ils font de l'illustration pour de la prévention.
Voilà,
ils sont très très dynamiques.
Mais on pourrait même les inviter un jour à la radio pour parler un petit peu de leur univers. On en serait ravis et je suis sûr qu'il y aurait du bien de vous.
C'est sûr.
Est-ce qu'on connaît la part au niveau des livres de ce domaine? Est-ce qu'on connaît aussi, voilà. Est-ce qu'il y a des fleurs bleues, il y a des, vous êtes dans notre style. Est-ce qu'on connaît la part à peu près de lecteurs?
De lecteurs sur la science-fiction? Non, c'est compliqué. Ça c'est peut-être. Au niveau national, quelqu'un pourrait nous... Non, je ne sais pas du tout, non.
Cela représentait quand même un nombre important, parce que...
Oui, alors c'est vrai que ce genre de littérature science-fiction, c'est, on va dire... je dirais d'abord, c'est peut-être plus jeune adulte, ce qu'on appelle familièrement young adulte, voilà. Jeune adulte, c'est, je le vois dans les dédicaces, hein, c'est peut-être plus masculin que féminin, hein. La science-fiction, alors...
C'est ce que j'aurais pensé, oui, en effet.
Ça attire plus les garçons que les filles. Après, ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a un peu de romance, si, par exemple, Hunger Games, je sais que ça plaît à tout le monde. Divergente
oui.
aussi, voilà.
Oui, parce que peut-être qu'il y a... Il y a un peu toutes les thématiques de la société qui sont développées. Et si on met un peu de romance et d'amour, c'est sûr que ça, parfois, c'est un peu plus attractif. Mais après, il faut rester fidèle à sa sensibilité littéraire. Combien, Richard parlait du nom, mais est-ce qu'on sait le nombre de livres que vous avez, forcément, on le sait plus ou moins, mais que vous avez vendu, quelles étaient vos attentes par rapport à ça, notamment sur Bizertland, qui est le tome 1. Et on le rappelle, le deuxième tome est sorti le mois dernier seulement. Hein, donc...
Oui, oui. Alors, moi, je n'avais pas spécialement d'attente. Déjà, je ne pensais pas être publié. Hein, donc, c'était déjà une bonne nouvelle.
Ah, vous pensez ne pas être publié?
Ah, mais c'est compliqué hein, d'être publié.
Oui, c'est
hein.
très compliqué.
Il y a, surtout quand on passe après la période Covid, parce que la période Covid a fait naître des tonnes d'écrivains. Hein.
Oui,
donc,
oui,
les exact. Gens s'ennuyaient et ont décidé d'écrire chez eux. Et les maisons d'édition ont été inondées de manuscrits.
Donc, oui, donc au final, c'est... Ouais.
Au final, quand on passe derrière, voilà, donc votre manuscrit, il passe à la trappe ou il passe parmi des centaines d'autres. Donc c'était déjà une chance de pouvoir être publié. Et puis même il y a énormément de livres qui sortent chaque année. Donc sur les étagères des libraires, il y a une rotation énorme. Quoi. Votre livre, il reste une semaine, 15 jours, après ça passe au suivant. Hein. Donc,
c'est
très compliqué.
Et après, vous avez des obligations pour faire des dédicaces par-ci, par-là
Non. Disons que ma maison d'édition m'aide, par exemple, à trouver des interviews. Et moi, je travaille beaucoup avec Cultura, c'est une très belle enseigne.
Ah ouais. Cultura, ils sont sur plein de campagnes, je crois.
Oui.
La Valentine.
La Valentine.
C'est là où il y a pratiquement le plus de livres de tous les magasins existants.
Ah, c'est possible, c'est carrément c'est un hypermarché de la culture, quoi, entre autres.
Mais non, il faut le signaler, Cultura, je précise parce que peu de personnes peut-être connaissent. Arrêtez-vous à Cultura et rentrez, baladez-vous. Vous avez des merveilles de trésors qui sont là,
ouais.
Votre livre entre autres. Hein, mais voilà. Donc il faut signaler les
pas,
sociétés.
Pas trop de
pub,
mon cher Richard. Voilà, on va se faire taper sur les doigts. On ne doit pas faire trop de pub pour les. Ah. On peut faire de la promotion de livres, mais pas les grandes enseignes. Mais en effet, mais c'est pas bien grave. Hein, le tout c'est de pas développer davantage. Ouais. Mais en effet, vous faites des dédicaces. D'ailleurs, il y a plusieurs dates. Je sais pas si vous pouvez nous donner un petit peu les grandes dates des dédicaces que vous allez faire prochainement. Ça nous permettra peut-être de vous croiser, puisque du coup, j'ai vu qu'il y avait différentes. Zone géographique concernée, Gros et Cassis.
Alors, effectivement, donc, je serai au Cultura d'Aubagne le 17 mai, voilà, dans la zone d'Aubagne.
Oui.
Je serai au Cultura de Plan de Campagne le 7 juin.
Voilà, très bien.
Voilà, celui de Narbonne le 14 juin et celui d'Avignon le 11 octobre. Voilà. Entre-temps, j'ai... Ouais, c'est pas mal. Et j'ai pratiquement un partenariat avec Cultura et aussi quelques salons littéraires hein, à Rousset, au mois de mai, à Cavaillon au mois de mai aussi. Je vais participer au Festibule de Vitrolles.
Très bien.
Au mois de juin. Et le dernier, allez, le Salon des écrivains de Traits au mois de juin aussi. Voilà. Bon, c'est surtout la région.
Sinon, y a-t-il un site éventuellement où on peut vous voir? C'est important pour les auditeurs.
Oui, quel est le site
où on peut...
Alors, donc, le Land 1, Bizartland et Land de Casteland, en fait, ils sont disponibles dans toutes les librairies. Donc, si vous préférez l'acheter en ligne, il est. Alors, on peut citer là, Anthony, puisque je cite tout le monde là.
Je vous en prie, très bien, vous avez tout compris.
La Fnac, Cultura, Amazon, De Citre, Chapitre, Gibert, voilà. En ligne, vous pouvez le trouver partout. Alors, ce qui est bien, c'est que le prix du livre est réglementé, donc c'est le même prix partout.
Oui, c'est 26 euros, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà. Et vous pouvez très bien le commander à votre librairie de quartier. S'ils ne l'ont pas, ils l'auront sous 48 heures en le commandant directement au distributeur.
Donc, on le rappelle, est-ce qu'on peut lire le tome 2 si on n'a pas lu le tome 1? Ça, c'est la question, Greg.
C'est la question qu'on me pose souvent.
Eh oui.
Alors, c'est vrai que... Quand j'ai écrit le tome 2, j'essaye de faire pas mal de petits rappels sur ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il faut quand même lire le 1 avant, parce qu'il y a tout un univers qu'il faut connaître. Parce qu'on est des millions d'années après notre ère, on est dans une civilisation un peu différente de la nôtre, hein, c'est des humains bien sûr. On est sur une planète où il n'y a qu'un seul continent, et donc les codes, le modèle de société est différent. Et il y a aussi beaucoup de personnages. Donc, je pense que si on lit le 2 sans lire le 1, on va chercher qui est qui.
Donc,
va être compliqué.
Il faut taper tout simplement Bizardland, vous tapez tome 1, Gros et Cassis, vous allez avoir ce premier livre. Il y a une couverture qui est splendide. D'ailleurs, on le disait en off, Richard, vous évoquez, je crois, du vernis sélectif, c'est bien ça?
C'est ça, ouais, c'est une technique d'impression qui permet de...
C'est très beau.
De faire ressortir des éléments de l'image ou de la photo spécifique, et ça fait une espèce d'effet 3D.
Exactement. Est-ce qu'à travers vos écrits, j'ai la réponse, mais c'est pour que nos auditeurs et auditrices s'emparent de la chose, est-ce qu'on a seulement des écrits, est-ce qu'on a des images, ou justement c'est les écrits qui poussent à l'imaginaire?
Alors déjà, on a, comme vous disiez, une couverture qui est un petit peu intrigante. Hein. Dans le tome 1, on voit une planète avec un seul continent,
ouais.
On voit une forteresse perchée sur une falaise. Et à l'intérieur, c'est vrai que j'ai voulu mettre des illustrations. Donc il n'y a pas beaucoup d'illustrations parce que je n'ai pas voulu faire un bouquin, illustré. Hein. Il y a 3 illustrations en noir et blanc. Il faut tomber dessus, hein, qu'on doit à...
Sur les 425 pages, hein, à un moment donné, on y tombera.
Qu'on doit à un très bel artiste qui est Mohamed Labidi. C'est lui qui m'a fait les illustrations sur, on va dire, mes recommandations. Mais il a réussi à transcrire vraiment ce que j'attendais. C'est des très, très belles illustrations. Et dans le tome 2, pareil, c'est lui qui me fait la couverture et qui m'a fait les illustrations à l'intérieur.
Okay. Alors vous êtes régional, vous êtes d'Aix.
Oui.
Est-ce que, à titre, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau régional, est-ce que la culture se développe bien? Est-ce que les
éditeurs du livre,
sont florissants?
Je peux vous le dire par intermédiaire justement de toutes les manifestations qui sont organisées dans les Bouches-du-Rhône. Hein. Il y a énormément de salons du livre. Il y en a pratiquement 2 ou 3, voire 4, tous les mois et toute l'année, même en plein hiver.
Ah ouais, non, ça se développe. C'est vrai, on ignore parfois, mais c'est très bien.
On l'ignore, moi j'ai ignoré totalement, autant.
Puis Aix aussi est quand même plutôt pionnière en la matière, hein, il faut quand même le signaler. Hein.
Mais en ce moment, c'est le festival de la BD à Aix, c'est tout un mois.
C'est pas le festival d'Angoulême qui, lui, est extrêmement populaire, mais ça fonctionne très bien dans notre région.
Tout à fait, donc... Moi, j'incite quand même les jeunes et les moins jeunes à lire parce que je croise beaucoup de gens. Alors, c'est bizarre, hein, quand je fais des dédicaces dans des librairies, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben, je lis pas ». Donc, ils viennent peut-être pour autre chose. Hein. Ça peut être des adultes, des jeunes. Mais moi, j'incite fortement les gens à lire parce que déjà, ça les sortir un peu de leur écran. Il faut se dire que sa tête, son esprit, c'est un écran à lui tout seul. Donc ça permet d'imaginer beaucoup plus de choses que ce qu'on peut voir, ce qu'on nous propose sur des réseaux, quoi. Donc lisez, imaginez.
Il y aura ceux qui pas sur les écrans, la diversité. Oui. Ça, ils trouveront la diversité de tout, alors que sur les écrans, c'est relativement axé sur un seul domaine.
Oui, oui, puis c'est chacun peut imaginer les propres personnages, les lieux, les situations avec son propre esprit.
C'est quand même important ce que vous dites là, c'est qu'évidemment aujourd'hui les écrans, et alors moi en tant que jeune papa, oui, papa d'une fille de 12 ans et papa d'un garçon de presque 4 ans, on se rend compte que les écrans prennent, enfin, si on laisse la place naturelle des écrans, c'est invivable et c'est même problématique, je pense même au niveau cérébral. Donc moi je fais quand même la guerre et ça se passe plutôt bien, mais on sait que parfois il faut être extrêmement rigoureux. Le livre permet en tout cas de s'évader, permet de se cultiver, permet de maîtriser, vous disiez tout à l'heure Grégory Cassi, le vocabulaire, c'est quand même important, et puis aussi voilà, de pouvoir avoir son imagination, sa perception, ses sensibilités. C'est à travers des écrivains aussi que certains se sont reconnus de telle ou telle sensibilité, de telle ou telle appétence pour tel ou tel domaine, et c'est quand même très important le livre. On sait qu'aujourd'hui avec YouTube et autres, ben oui, on pourrait regarder une série fantastique, on taperait série fantastique et on aurait pendant un an, on pourrait voir des séries tous les jours pendant des heures. Donc voilà, l'accès aux livres, ça se développe bien culturellement. Richard l'évoquait tout à l'heure et vous l'avez si bien dit, Grégory Cassi. Il y a de quoi faire avec les salons du livre, il y a de quoi faire avec ces rencontres-là. Il y a des bibliothèques qui fonctionnent très bien. Il y a l'idéothèque, par exemple, des Pays de Mirabeau qui marche très bien aussi, parce que je connais le secteur. Et ça, vraiment, il faut les utiliser. C'est pas has-been, voilà, la bibliothèque, livre, c'est toujours d'actualité et il faut avoir cette affection. 8h32 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste 7-8 minutes, on est toujours en direct avec Grégory Cassi, auteur, romancier, j'allais dire sur la littérature fantastique et de la science-fiction. Donc on veut profiter des quelques minutes qui nous restent. Richard, probablement une question. On rappelle oui. Que ce livre, il est... le Land, donc Bizertland, c'est le tome 1, Castelland, c'est le tome 2. Est-ce qu'on part sur au moins un tome 3 et plus si affinité, Grégory Cassi ?
Alors là, je vais dévoiler quelque chose que je n'avais pas encore dit.
Ce que vous souhaitez.
Oui, non, là, évidemment, vous l'avez dit, c'est une décalogie, donc ça veut dire qu'il y aura 10 tomes, donc c'est un travail assez ambitieux. Hein. Oui. Le tome 3...
C'est peut-être 10 ans de votre, de votre vie qui devrait être occupée.
Certainement. Mais le tome 3 est en cours d'écriture, voilà. J'ai commencé le tome 3 il y a quelques semaines. Donc logiquement, si j'écris à un bon rythme, il pourrait sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine.
Ça, voilà. Ça c'est alors, génial.
Juste
Richard, je t'en prie.
Concernant l'idée de développer le livre auprès des collèges et des lycées, est-ce que c'est une chose qui peut être envisagée? Et donc, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez de pouvoir rentrer dans... Est-ce que les collégiens sont trop jeunes pour lire ça ou...
Oui, alors c'est une très bonne question parce que justement, j'ai déjà été approché par des professeurs de collège puisqu'en fait, le livre évoque un sujet essentiel pour moi. Hein. Quand on parle de dystopie, de monde meilleur, etc., on se dit finalement, est-ce que l'homme n'est pas un peu condamné à reproduire éternellement les mêmes erreurs ? C'est-à-dire que même si demain, il y a une nouvelle civilisation qui émerge, est-ce que l'humanité se comportera de la même façon ? Donc ça, c'est un sujet hyper intéressant justement pour les jeunes et dont on peut les faire débattre. Et on peut prendre justement l'angle et l'approche des civilisations qui ont disparu, comme l'Égypte, les Mayas ou l'Empire romain, voilà. Toutes ces civilisations, elles ont chuté toujours pour les mêmes raisons. C'est toujours des problèmes de guerre, de politique ou même de maltraitance des peuples ou de famine, etc. Donc à travers ce biais-là, on peut organiser des débats justement dans les collèges. Je pense qu'à partir de classe de 4e, 3e, ça peut le faire. Donc,
oui, si, je pense que ce serait un bon sujet de dissertation. Et voilà. Et alors, une deuxième question. Est-ce que vous êtes cloisonné dans ce style d'écriture ou vous avez caché quelques autres projets ?
Oui, j'ai d'autres projets. Alors c'est vrai qu'avec la saga Land, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu prenant parce que Si je m'engage à faire 10 tomes, c'est-à-dire que j'écris beaucoup et ça peut m'empêcher d'écrire autre chose. Alors oui, effectivement, j'ai d'autres projets. J'ai un projet d'une trilogie, un thriller un peu fantastique sous fond de lycanthropie. Alors je ne sais pas si ça vous parle, la lycanthropie. C'est encore des termes, on va dire, un peu... fantastique. La lycanthropie, c'est les loups-garous, en fait. Hein, voilà. Donc, j'ai déjà la trame. Et j'ai aussi dans mon viseur un roman qui pourrait explorer l'existence d'une puissance surnaturelle qui viendrait nous juger, qui viendrait juger les humains. Donc, en fait, c'est un petit peu toujours... Enfin, ce thème qui me tient à cœur, c'est nos modèles de société. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou c'est pas bien, quoi.
Qu'on peut dire aussi qu'il y a parfois, et quand on a préparé l'émission, et d'ailleurs je vous remercie pour tout le travail que vous m'avez transmis, notamment sur les différentes questions, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un message, alors subliminal ou pas, à travers aussi bien Bizertland que Castelland, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un message derrière? Parce qu'on sent que vous évoquez justement le volet de la société, du renouveau, de Big Brother, George Orwell en 1984, ce volet fantastique... Utopiste, on parlait de dystopie. Est-ce qu'il y a un message, voilà, de la part de vous en tant qu'auteur, Groekassi?
Oui, le message, bon, il est clair, hein, c'est que on a des modèles de société qui existent depuis, on va dire, des millénaires. Hein, on s'aperçoit que finalement, quand une civilisation chute et qu'elle redémarre à zéro, elle arrive toujours à un point de rupture où après, oui, c'est un cycle un peu infernal où c'est toujours les mêmes choses qui se produisent. Donc, il faut rester lucide, hein, sur l'imperfection de l'être humain, mais aussi il faut se dire qu'il y a quand même toujours une lueur d'espoir sur la possibilité d'un monde meilleur, même si ça peut sembler utopique. Hein. C'est un message d'optimisme. Je refuse de croire que notre destin, c'est de s'auto-détruire, quoi. Voilà, donc après, c'est chacun...
Alors avant de finir, donc, rappelez-nous, s'il vous plaît, les prochaines journées où vous allez recevoir le public pour présenter ce livre et le dédicacer, oui, je pense.
Alors, les dates, les prochaines dates où je pourrai rencontrer le public, vraiment, on va dire, un peu plus, dans des conditions un peu plus, dans de meilleures conditions, c'est Cultura à Aubagne le 17 mai.
À quelle heure à peu près?
De 10h à 18h, on va dire.
D'accord, voilà. Vous serez présent de 18h à 18h.
Oui, je serai présent de 17h à 18h dans le rayon librairie, hein, vers le rayon imaginaire. Hein. Plan de campagne, donc c'est un des très plus gros Cultura de France, hein, plan de campagne. Hein. Le 7 juin, alors c'est des samedis à chaque fois, hein, 7 juin. Cultura Narbonne, alors là, ça, je ne pense pas que des gens de Narbonne nous écoutent ici.
Si, allez-y.
C'est possible. Le 14 juin. Et le Cultura d'Avignon, le 11 octobre. Voilà. Ça, c'est les principales dates de Cultura.
Et bien voilà, donc ça permet de... Ça vous permet de visualiser le livre en couverture, si vous ne l'avez pas déjà fait, qui est très beau, de rencontrer l'auteur et de pouvoir discuter avec lui comme on l'a un petit peu essayé de faire aujourd'hui. J'espère qu'on a réussi à faire notre métier à nous, qui n'est pas tout à fait le vôtre. Et donc d'avoir l'occasion qu'il vous dédicace le livre, ce qui serait quand même pas mal. N'hésitez pas à passer. Et voilà, ça fera plaisir à la radio, à l'auteur, à tout le monde. Et allez-y.
Après, bon, si des auditeurs, des auditrices veulent me contacter ou d'autres personnes en direct, je vais vous laisser mon adresse mail, c'est très simple. Hein. C'est Groe, donc groehe.kassi, kassi@outlook.com. En tout cas, merci Richard, merci Anthony pour votre accueil.
Il nous reste une petite minute, je t'en prie mon cher Richard, une petite minute. Vous avez rappelé les différents canaux, en tout cas, où on peut vous retrouver, de rappeler aussi l'édition, de rappeler les dates aussi des dédicaces de Cultura qui arrivent Prochainement, Gros
et
Cassé.
Je l'ai rappelé. Ma maison d'édition aussi, je remercie Hiro Édition. Hein. Mais mon directeur artistique, Bilal Kétiri, et mon directeur commercial, Frédéric Fouque. Voilà. Et merci en tout cas, Radio Galère. Une très belle radio historique. Et je crois que vous avez fêté vos 40 ans, c'est ça ? Vos 50 ans ? Vous avez fêté vos 40 ans ?
Oui.
Bon, bon anniversaire.
Oui, pas moi. Oui. Eh bien, écoutez, on ne manquera pas de vous contacter, peut-être moi personnellement, pourquoi pas. Hein, car ce que vous faites me paraît correspondre à la réalité et à l'avenir qui malheureusement reste un peu dans le même sens avec une question existentielle, qu'est-ce qu'on deviendra ? Et je pense que c'est intéressant de faire en sorte de...
Parfait, mon cher Richard. Parfait, voilà, je viens reprendre. Merci Gros et Cassé d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Galère, c'était un vrai plaisir.
Merci Anthony, merci Richard, merci les auditeurs et les auditrices de Radio Galère.
Mais avec grand plaisir, voilà, donc Gros et Cassé, tome 1, Bizertland, tome 2, Castelland, vous avez les différentes dates pour les dédicaces, n'hésitez pas à vous taper sur les moteurs de recherche et vous allez évidemment découvrir son univers extrêmement atypique et extrêmement intéressant. Pause musicale sur les ondes de Radio Galère avec Ed Sheeran, l'incontournable Ed Sheeran, le talent à l'état pur. Dédicace, elle se reconnaîtra. Perfect sur les ondes du 88.4. Merci Gros et Cassé. Et donc Forum de l'emploi et de l'alternance qui arrive incessamment sous peu. Merci.
Et merci. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. My future.
Sheeran, perfect sur les ondes du 88.4. Voilà, l'incontournable et le talentueux Ed Sheeran sur les ondes de Radio Galère. Nous reprenons le cours de notre émission. Émission, vous le savez, consacrée à l'actualité. On vous l'avait évoqué déjà depuis quelques semaines. On a le plaisir de recevoir ce matin la mission locale, j'allais dire de l'étang de Berre, le côté Est. Ils sont avec nous. C'est pas une première. Et c'est certainement pas une dernière. Ils sont avec nous pour nous parler du Forum de l'emploi et de l'alternance, pour nous parler des différentes missions, l'accompagnement des jeunes, les dispositifs, les forums, et donc ce fameux forum qui aura lieu la semaine prochaine, le 30 avril. Donc on est à J-7 de cet événement, a priori, j'espère ne pas me tromper, mais plutôt un événement phare pour la mission locale. Ils sont avec nous et on va les saluer, évidemment. Loric, tu vas pas nous en vouloir, on sera galant. On va donc présenter dans un premier temps Marie-Laure Florent, responsable du pôle ressources entreprise. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour à tous, merci de nous avoir invités aujourd'hui.
Avec grand plaisir, ce n'est pas une première pour vous en plus parce que c'est au moins la deuxième, voire la troisième fois que vous êtes avec nous.
La deuxième fois
que vous êtes avec nous sur les ondes de Radio Galère. Je salue à l'époque puisqu'on avait eu Anaïs Covin, on avait eu également Nathalie Baglieri qui avait été présente. Et quand je dis ça, on parle d'une époque où on était dans cette fameuse époque où le Covid n'existait pas, donc 2019 à l'époque. Et puis, il y a 3 ans, on avait eu également Anaïs. Le nouveau, il est là, il est avec nous. Loric, Santiago est avec nous. Bonjour Loric.
Et bonjour, je suis super content d'être dans vos locaux. Hein.
Bah écoutez, merci pour l'invitation. Est ravis. Et d'ailleurs, ton enthousiasme, il est extrêmement évocateur quand on a préparé l'émission. Et c'est super sympa de préparer les émissions avec... avec ce genre de personnes, c'est qu'il y a cet enthousiasme, au-delà de la pertinence du dossier, il y a beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme, et ça fait du bien. Bon, a priori, c'est un dossier qui est d'ailleurs sensible, parce que l'emploi, c'est parfois un phénomène de société, il est parfois contrariant, il est parfois extrêmement amélioratif, mais en tout cas, c'est une thématique qui est importante dans la vie, et c'est important de mettre cette énergie-là, et vous la mettez si bien. Je m'adresse à Loric, mais je m'adresse également à vous, Marie-Laure, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'empathie et d'enthousiasme. Donc vous allez nous parler de ce forum de l'emploi. Richard est toujours à mes côtés, Anthony au micro. On salue l'absence de notre cher Christian qui n'est pas là aujourd'hui. Et jusqu'à 9h25, donc on a 35 minutes, on va parler de ces missions, de ce dispositif et évidemment de ce forum de l'emploi. Avant toute chose, je m'adresse à vous deux, Marie-Laure et Loric. Parlons un petit peu de la mission locale parce qu'en fait, nous, jeunes et moins jeunes, la mission locale, c'est souvent évocateur, c'est souvent une alternative qui permet justement de trouver un job ou surtout trouver une formation, de trouver un élément pour s'épanouir. Comment se portent les missions? Comment elles sont organisées? Quel est le fonctionnement? Est-ce qu'on en trouve? Je me fais un peu les questions bêtes, mais on en trouve dans toutes les communes. Voilà, parlez-nous un petit peu ce qu'il en est, parce qu'on veut savoir. Souvent, on parle très souvent du pôle emploi. La mission locale a quand même vocation à être extrêmement légitime. On sait que c'est plus ou moins différent, que ça s'adresse plus ou moins aux jeunes. Là, on part du forum, de l'alternance. Enfin, il y a beaucoup de choses. On veut tout savoir. Loric, Marie-Laure.
Allez, ok, ben je me lance. Effectivement, la mission locale, on en parle beaucoup, on sait un petit peu ce que c'est, mais pas toujours.
C'est vrai.
Alors en fait, nous, nous allons nous occuper principalement d'un public jeune, donc le public qui va de 16 à 25 ans. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on connaît France Travail, hein, Pôle emploi.
Oui, pardon, tu fais bien l'oreille, vous voyez, je fais même moins de...
Je fais la mise à jour.
Pourtant, ça fait presque plus d'un an, hein, mais,
ouais, ça fait plus
mais
d'un
en
an
effet, on ne dit plus Pôle emploi, on doit dire France Travail, comme à l'époque on disait les ACDIC.
La NPE,
exact, la NPE, exactement.
On ne va pas faire les boomers, on ne va pas parler de...
Non, donc on va rester sur l'actualité.
Effectivement, ces jeunes, c'est le public qu'on accompagne. Donc notre mission première, c'est de les amener vers l'autonomie. Voilà, on va être vraiment au sens large du terme. L'autonomie, c'est ce qu'on va proposer à la jeunesse qui vient s'inscrire, vient être accompagnée en mission locale, et pas seulement effectivement sur le volet emploi. On va travailler avec eux sur plusieurs choses. On va travailler avec eux sur la santé, par exemple, puisqu'effectivement, la problématique santé, si on n'est pas en pleine forme, en bonne santé, on ne va pas pouvoir aller vers l'emploi, on ne va pas pouvoir aller vers la...
Et Laurie, qu'on parle de santé physique, mais de santé mentale aussi, je suppose.
Et c'est bien de le relever, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que... conseiller, hein, parce que je suis effectivement, je me suis pas présenté.
Conseiller en insertion sociale et professionnelle. Ouais. Je l'avais évoqué au tout début, mais vous faites bien de le rappeler.
Les jeunes que je reçois, au-delà de la problématique de santé physique, comme on peut l'entendre, c'est vrai que la santé mentale, c'est quelque chose qui revient souvent lors de nos entretiens et sur lesquels on essaie de travailler avec des partenaires. Donc le premier point pour moi, ça va être de travailler sur ce volet-là. Mais la mission locale, globalement, elle a plusieurs missions.
Non mais alors moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que et Marie-Laure complétera certainement, Richard également, c'est que on a souvent ces clichés réducteurs. Les jeunes ils sont perdus, s'ils vont à la mission locale, c'est parce qu'ils sont en échec scolaire. Ben quand on est parfois en échec scolaire, ben c'est qu'on a des problématiques et justement, on peut rebondir. Certains disent oui, mais bon moi je fais pas d'études et puis je serai maçon plombier et j'ai envie de dire que c'est très très bien, il y a des maçons, des plombiers qui font des carrières magnifiques, mais pour ça en tout cas il faut peut-être une orientation, il faut une trame, il faut aussi parce que, et je le sais par rapport à votre travail et puis connaître un petit peu de loin l'univers, ben, il faut beaucoup d'empathie, il faut aussi donner de la confiance aux jeunes qui, parce que c'est souvent les parents qui disent voilà allez tu as 20 ans, tu es toujours à la maison, tu fais rien, va à la mission locale, bon il y va, mais finalement s'il ne trouve pas quelque chose de une spirale sociale, une spirale humaine, ben, au final il retourne chez lui et c'est le conflit, parce que à cet âge-là vous allez me dire le conflit il est quand même présent entre papa, maman et l'enfant. Est-ce que je me trompe, Laurie, Marie-Laure, comme vous le souhaitez.
Alors, après, pour le jeune, il faut aussi qu'il ose venir franchir la porte. Et voilà.
C'est déjà presque une victoire de venir.
Voilà, c'est le oser franchir la porte. Et c'est vrai qu'on a aussi une notion donc, d'accompagnement, mais avant tout de repérage. C'est-à-dire qu'on va aussi vers les jeunes qui ne viendraient pas d'eux-mêmes. Voilà, on a une équipe dédiée à ça, à aller auprès des partenaires et essayer de rencontrer les jeunes dans d'autres endroits que dans la mission locale qui est encore l'institution.
Ah voilà, donc voilà. Ça veut dire que finalement, si le jeune ne vient pas à vous, vous allez de temps en temps dans les quartiers et leur dire « il se passe ça chez nous ». Venez voir ce que ça donne, ou alors des activités, des ateliers, c'est un peu ça l'idée.
Alors même, effectivement, en fait, le fait d'aller vers les jeunes, ça c'est quelque chose d'assez récent, ça s'appelle le repérage des invisibles, qui est un dispositif de la mission locale qui est là pour repérer ces jeunes qui ne sont pas dans les radars. Pardon pour le terme, mais globalement, vous n'êtes pas inscrit chez France Travail, vous n'êtes plus à l'école, vous n'êtes pas en formation, vous n'êtes pas en mission locale, qu'est-ce que vous faites ? Donc, ces jeunes-là qui ne sont pas comptabilisés au final comme demandeurs d'emploi.
Tous les invisibles.
Exactement. Donc on a une équipe dédiée qui va justement se rendre dans les quartiers. Donc c'est par rapport à des territoires définis et qui vont aller à leur rencontre pour un peu changer les modalités d'accompagnement effectivement, puisque ce sont peut-être aussi des jeunes soit qui n'ont jamais été inscrits, soit qui ont été inscrits mais qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient et qui sont repartis de ces institutions et qui sont là mais qui attendent qu'on les aide d'une manière différente. Et c'est l'objectif justement de ce dispositif.
Pour rebondir, donc c'est un transport gratuit. Non mais il faut le dire.
Alors Richard, ça c'est juste après.
Sur réservation.
Richard.
Et il y a marqué plus d'infos, je peux donner un téléphone.
Est-ce que Richard m'entend? Oui, il m'entend. Ça, c'est juste après Richard, c'est le forum de l'emploi. Là, on reste, tu avais le fil conducteur, on reste sur la mission locale et ensuite, on va développer la journée du 30. Là, pour l'instant, on est sur en amont. Sinon, on va entre guillemets squeezer. Alors, tu m'excuseras de t'avoir coupé la chic.
Non, mais t'as bien fait. J'étais un petit peu plus loin.
Non, mais tu fais bien. Mais tu vas le faire tout à l'heure avec pertinence, mon cher Richard. Mais du coup, là, on est vraiment sur les missions d'accompagnement. Et ensuite, on va parler du forum du 6 minutes où on ciblera le forum de l'emploi et de l'alternance qui aura lieu le 30 avril avec notamment les transports gratuits. Mais avant de parler du forum de l'emploi, je trouve ça extrêmement intéressant. Au-delà du fait que, est-ce que parfois on a ces conflits, est-ce qu'aussi on a les familles, parce qu'on a peut-être parfois le grand frère, le petit frère, le cousin. Quand on parle de 16 ans, bon, on imagine que s'il vient vers vous, c'est qu'il a au moins arrêté l'école. Quand on est à 25 ans, c'est peut-être forcément que l'école n'est plus là, mais que X ou Y métiers précédents n'ont pas convaincu. Je dis une bêtise, peut-être qu'il en a eu marre, peut-être qu'il s'est fait virer, peut-être que lui a quitté. Et donc là aussi, on a différents degrés, on a différentes approches, parce que on le rappelle, hein, la force quand même de cet âge-là, et je pense qu'elle est commune à tout le monde, c'est qu'on est jeune et qu'on a donc la vie devant soi. C'est plus compliqué si on arrive à la mission locale à 50 ans, il faut dire ce qui est. Bon, c'est pas le cas, ou même...
Ça ne sera pas possible.
Ce que je voulais dire, pardon, c'est pas la mission locale sur le volet de l'emploi, ouais, c'est ce que je voulais dire de manière globale. Quand vous arrivez à 50 ans et que vous n'êtes pas qualifié à France Travail, c'est plus compliqué que si vous avez 20 ans. Donc du coup, vous vous permettez ce tremplin-là. Et justement, avec les différents dispositifs, comment ça se développe, Lauric, Marie-Laure ?
Alors, au niveau de l'accompagnement, effectivement, on reçoit des jeunes... Des fois, même avant, c'est-à-dire que nous, on les accompagne à partir de 16 ans. Il arrive qu'avec les parents, déjà vers 15 ans, à l'approche des 16 ans, ça commence un petit peu à décrocher scolairement. Ouais. Et c'est là où on se dit, bon, ben, y a pas 36 000 solutions. Si l'école ne convient pas, ça va être aller vers l'emploi. Ça, c'est aussi la démarche du jeune. Hein. Oui, le jeune, effectivement, lui, il a envie de bosser.
Je rajoute aussi que pour les mineurs, on est en contact régulier avec l'éducation nationale dans le cadre du PSAD.
Qu'est-ce que c'est le PSAD ?
C'est la lutte contre le décrochage scolaire. On est en contact où il y a des commissions pour justement les décrocheurs. Voilà, c'est décrocheurs de l'éducation nationale pour pas les perdre. Donc il y a un lien qui se fait et de fait, on essaye de les raccrocher, de les récupérer pour pas qu'ils partent dans la nature en fait ces jeunes. Donc il y a un lien qui se fait en amont entre l'éducation nationale et les missions locales.
Et ça, évidemment, c'est précieux. Richard, peut-être une question sur les jeunes, sur le décrochage, sur les missions locales qui jouent un rôle précieux.
Alors moi, j'ai des grandes questions de fond sur le décrochage. Aujourd'hui, quand on décroche, on a échoué. Eh bien, moi, j'ai connu plusieurs personnes qui ne savaient pas lire, écrire, qui signaient les chèques en disant « Tiens, prends le stylo et signe votre chèque », qui avaient des affaires qui fonctionnaient très bien et qui réussissaient très bien. Et aujourd'hui, il est temps de dire à tout le monde que la voie n'est pas unique et qu'on peut réussir de partout. Et là, je pense qu'il y a un message à passer. Parce que tous ces jeunes, dans leur tête, ils n'ont pas réussi, quoi. On leur dit, t'es con. Voilà. Alors, c'est pas vrai. Ils sont normaux. Et ils ont d'autres voies à prendre. Et je pense que c'est un message d'espoir et de réalité. Voilà.
Totalement. Voilà. Et en fait, c'est juste l'école qui n'est pas faite pour eux.
C'est
voilà,
ça.
C'est le contexte familial
qui n'est pas fait pour eux.
Mais souvent,
mais eux, c'est une personne unique qui peut réussir totalement.
Voilà, et c'est souvent, ils ne voient pas le concret à l'école. Enfin, ils ne voient pas, ce n'est pas concret ce qu'il apprend à l'école, les maths, les français. Et du coup, il a besoin d'avoir un but, un objectif, une voie. Et c'est ce qu'on peut lui offrir à la mission locale. Donc en touchant du concret, en faisant de l'expérience, des parcours d'expérience, en allant dans l'entreprise, toucher du doigt donc des métiers, voilà, découvrir.
C'est effectivement ce qui apporte une plus-value justement à cet accompagnement, c'est que par le biais de la mission locale, parce qu'à 16 ans clairement, qui sait ce qu'il veut faire ? Enfin, il y a pas beaucoup de jeunes qui savent, même à 20 ans, même à 25 ans.
Même parfois à 30 ans,
on est d'accord.
C'est
exactement ça. C'est qu'on ne sait pas tout ce qui peut exister comme type de métier, qui peut.
Mais, par à mon avis, vous montrez pas assez de personnes ayant réussi. Quand on montre des personnes qui ont réussi, on montre des footballeurs de rêve, des machins. Non, il y a des tas de personnes qui réussissent leur vie en ayant des situations normales et bien payées,
oui, mais sans parler de fortune.
Aussi, oui, oui. Et je pense qu'il y a des tas d'exemples de gens qui sont bien intégrés dans la société, qui n'ont pas forcément un circuit. Voilà. Je pense qu'il faudrait appuyer sur ce fait qu'on peut réussir, mais pas comme... Quand ils réussissent comme un grand footballeur.
Mais c'est ça, qu'est-ce que c'est que réussir ? Chacun a sa vision de la réussite.
Oui, bah, du coup,
mais une réussite normale, c'est-à-dire qu'on travaille, on
a une vie de famille.
Et bah, du coup, vous me tendez la perche, parce qu'on essaye donc de montrer ça aux jeunes à travers notre réseau parrainage, le parrainage vers l'emploi. Et la dernière fois, donc j'étais venue avec un parrain qui m'avait accompagnée, c'était Didier Debarge, que je salue du coup ce matin, s'il nous entend.
Et s'il ne nous entend pas, on lui enverra le podcast de l'émission, évidemment. Oui, vous avez parlé du parrainage, puisque il était sur, vous allez m'indiquer, sur une société, redites-moi, c'est le BTP, non, c'était pas le BTP.
Si, c'était il vendait des tuyaux de BTP, il était commercial, voilà.
C'était la structure...
Je ne me rappelle plus,
oui, je vois le logo, grosse structure, mais le logo, qui avait été adorable.
D'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que l'objectif de ces rencontres, donc tous les vendredis, on fait des petits déjeuners, rencontres avec... des parrains, marraines qui sont tous issus du monde de l'entreprise, des bénévoles, en activité ou à la retraite, comme Didier, et qui sont là justement pour parler de manière très simple à des jeunes et leur dire, voilà, moi, à un moment donné, j'ai pas toujours été chef d'entreprise, j'ai pas toujours été cadre, j'ai connu des galères, j'étais pas bon à l'école, mais à un moment donné, une personne, un centre d'intérêt... m'a permis de saisir l'opportunité de voir d'être là où je suis aujourd'hui. Voilà, donc on essaye vraiment de les mettre face à des parcours réussis et aussi face à des jeunes aussi, puisque on a aussi le studio La Bonne Idée où je te laisse en parler.
Oui, effectivement, quand on s'est présenté, j'ai oublié de vous dire que j'étais également référent sur le volet communication. Et par le biais de cette activité, on a la chance, au sein de la mission locale Est-Étendre-Berre, d'avoir un studio qui s'appelle le studio La Bonne Idée. Alors, c'est quelque chose qui a été déployé sur maintenant toute la France par le biais des missions locales, où on a à peu près 90 studios en France. Qu'est-ce que c'est qu'un studio La Bonne Idée ? À la base, c'est un studio qui permet de diffuser...
C'est sûrement une bonne idée, en tout cas.
qui permet de diffuser des émissions en direct sur Twitch. Donc Twitch, qui est une plateforme...
on est obligé de faire avec les nouvelles technologies, évidemment, vous faites bien.
Parce que c'est sorti d'où, ça ? C'est sorti de 2020, quand il y a eu le confinement, les jeunes, on ne les voyait plus, et où on pouvait les trouver ? C'était sur les réseaux, et notamment sur cette plateforme-là. Donc on fait des lives, des directs, avec des jeunes volontaires en mission de service civique, qui gèrent ce studio-là, c'est-à-dire qu'il y a en général deux animateurs, un garçon, une fille, deux filles, enfin peu importe, hein, ça c'est après la mixité qu'on peut avoir au sein du studio et aussi en fonction de leurs appétences, parce qu'il faut être face caméra. Donc deux personnes qui sont au niveau de l'animation, une personne voire deux qui seront au niveau de la régie, des montages vidéo, la captation, le son. Et avec tout ça, avec tout ce beau monde, on fait des super émissions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple recevoir un professionnel, un entrepreneur qui recrute, on va le faire venir au studio. On va faire venir un jeune qui est intéressé par ce métier-là. Et là où ça va changer par rapport à un entretien habituel, c'est qu'on va les faire jouer à un jeu vidéo ensemble, qui seront sur un même pied d'égalité sur le jeu vidéo. Ils vont parler, ils vont pouvoir échanger. Le professionnel va pouvoir voir comment se comporte un petit peu le jeune au niveau de la discussion et de son savoir-être. Et le jeune va pouvoir lui montrer qui il est aussi. Parce que dans un entretien, face à face, on n'est pas toujours à l'aise, on a les mêmes ouates. Et là, ça change un petit peu la donne. Donc on a ça, on a des reportages, des interviews, on va faire des documentaires. Et tout ça, c'est géré par cette équipe du studio La Bonne Idée. Donc,
voilà, et c'est des jeunes donc en service civique, voilà, qui sont volontaires, c'est des volontaires en service civique, et l'objectif, c'est des jeunes qui s'adressent aux jeunes, donc le même langage, les mêmes codes, mais avec des messages porteurs.
Ouais, c'est le laboratoire d'expression des jeunes.
Et alors, depuis quand vous faites ce système ?
Alors, ça existe depuis 2019, ça a été créé par...
On l'a depuis 2021.
Alors, nous, oui. Effectivement, on l'a déployé après en 2021, notre propre studio. Et puis après,
Ça, est-ce que vous arrivez déjà à percevoir des évolutions par rapport aux gens qui viennent?
C'est là.
Est-ce que vous avez des retours?
Mais bien sûr.
On a des demandes, en fait.
L'idée, c'est l'engouement que ça va créer, ça va générer. On parlait tout à l'heure des invisibles. On va parler des métiers classiques, hop, la logistique, de la bureautique, peu importe. Mais ça ne fait pas forcément rêver aujourd'hui les jeunes. Il y a effectivement le côté très terre à terre, il faut travailler, effectivement. Mais il y a le côté, et moi, tout ce que je sais faire, ce que j'aime, qui je suis. Ben, on va proposer une autre activité, un autre réseau, autre chose pour attirer ces jeunes-là.
C'est absolument une idée excellente. Hein.
Merci.
Ceux
qui l'ont créé, parce que
ça rejoint
à ceux qui l'ont créé et à notre directeur qui a été novateur, donc à Sandrif, que je salue aussi ce matin, et qui a été novateur parce que c'est vrai qu'en 2021, quand il a lancé l'idée, il y en a plein qui ont dit, enfin, il a dit on y va, on n'y croyait pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment une belle réussite, et c'est les employeurs qui viennent à nous en nous disant, ben, est-ce qu'on peut passer est-ce que vous pouvez nous interviewer? Parce qu'on a des problèmes pour recruter. On a justement, c'est valoriser des métiers qui ne donnent pas envie. Donc, c'est aussi valoriser certains métiers.
Ou qu'on ne connaît pas.
Bien sûr. Comme notamment dans l'industrie et le VTP, où aujourd'hui, ça recrute et que les employeurs ont du mal. Enfin, ça recrute de partout, hein, de toute manière.
C'est ce que je disais dernièrement lors d'une interview. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contact entre les dirigeants et les ouvriers travaillant n'existent pas, ou peu. Et que le fait de boire le café ensemble, le fait de...
Les sensibiliser aussi au public.
Rapproche les gens, parce que bon, le personnel, ils les connaissent pas. Mais du coup, ils savent que, tiens, j'ai eu un petit bébé. Alors ils savent, et ça rentre dans d'autres domaines de passage. Et ça, c'est très, très, très important. Ça rejoint un peu ça, parce que là, ça crée du lien social. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un endroit où on n'est pas patron-employé. On est à égalité. Et voilà, c'est formidable d'arriver à retisser un lien. Ça, c'est génial.
C'est justement le lien qui est fait sur le plan du tissu social et de la dimension humaine. 9h10 sur les ondes de Radio Galère, ouais. Il nous reste un petit quart d'heure. On est toujours en direct avec la mission locale de l'Est étant de Berre, du pays salonnais, pour parler du forum de l'emploi et de l'alternance. Donc on y vient précisément. Merci Richard en tout cas d'avoir fait cette transition-là. Donc 30 avril, 14h-17h, à la salle polyvalente, j'espère ne pas me tromper, Jean-Christophe Folle à Berre-l'Étang. Alors ce forum, expliquez-nous un petit peu l'ADN un petit peu de cette journée-là. On est à J-7, donc auditeurs, auditrices, si vous êtes concernés, il faut vous y rendre. Si même vous n'êtes pas concernés, ça peut être intéressant pour des parents, des tontons, des parraines, des marraines, enfin en tout cas de s'envahir un petit peu, en tout cas de s'emparer de cette ambiance-là, et puis surtout pour avoir derrière les relais et communiquer. Moi, je trouve que c'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de Pôle emploi, France Travail. La mission locale a fait un travail remarquable, et au plus c'est démocratisé, et au plus ça permet en tout cas de donner un accès attractif pour les jeunes. J'allais dire 25 ans, moins jeunes, mais on reste quand même très jeunes. N'est-ce pas, Laurie, qu'on est...
C'est mon âge, exactement.
C'est le mien également, voilà, d'ailleurs. Et Richard a à peine un peu plus que moi. Vous voyez ? Alors, là, on y va pour ce forum de l'emploi. 30 avril, 14h-17h, on veut tout savoir.
Rendez-vous compte, là, vraiment, on peut faire du transport gratuit.
Voilà, il y revient, voilà,
il l'a placé.
Il a réussi. Non, mais c'est vrai.
On peut faire du transport gratuit, donc ça c'est très important. Par réservation, après, donc c'est très important. Au 04 42 74 94 42. Si vous avez des soucis pour vous déplacer, que vous voulez absolument venir, téléphonez et réservez.
Exactement.
Voilà. Il y a un bus qui est au départ de Châteauneuf-les-Martigues et qui desservira donc les communes de Saint-Victoré, Marignane, Gignac, Vitrolles, Rognac et qui s'arrêtera à Berre, et un autre au départ de Salon. Voilà, et qui desservira.
En tout cas, ça, c'est...
Il y a deux bus. Voilà.
C'est très bien de l'avoir mis en place. On rappelle que c'est inscription obligatoire pour connaître aussi les lieux et les horaires de passage. Ah, oui. Vous avez cité 5 ou 6 communes. Donc,
voilà.
C'est pas
non,
unique.
Après, ils appellent, ils disent de là où ils veulent partir et on leur donne le créneau horaire et l'endroit où...
Voilà. Ça, c'est génial. Richard a évoqué les numéros. Plus d'informations, vous tapez aussi www.missionlocale-eeb.org. Il y a même un contact presse au cas où. Enfin, tout est bien fait. Alors moi, ce que je veux évoquer avec vous et avec Richard notamment, pour les auditeurs ou auditrices, c'est de nous donner un petit peu les grandes lignes, les objectifs de ce forum-là. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Voilà, on veut tout savoir.
Alors, donc, puisqu'on a démarré par la fin, voilà, on va repartir depuis le début. Donc, c'est vrai que nous, ce forum, c'est notre grand événement traditionnel, hein, puisqu'on organise ce forum depuis 2005.
Toujours à la même période, a priori,
oui,
non ?
Oui, c'est ça, puisque l'objectif, c'est forum emploi et alternance. Donc, c'est aussi faire un focus sur tout ce qui est contrat en apprentissage et en alternance pour les jeunes qui recherchent. Mais c'est un forum vraiment tout public, puisque avant tout, c'est de l'emploi. Donc, ce qui va être CDD, CDI, intérim, contrat saisonnier, puisqu'on est aussi sur la saison.
Oui, et oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce timing-là aussi, là, au mois d'avril, qui permet...
La recherche d'alternance, puisque c'est aussi...
Et oui, pour septembre.
C'est aussi Parcoursup, et voilà, c'est aussi les vœux.
Le stress pour certains.
Voilà, le stress pour certains.
Pour les parents,
l'opportunité de contrat saisonnier, l'opportunité d'anticiper, justement, si on stresse trop, pour voir la solution au cas où on n'est pas pris, voir ce qui peut nous intéresser. Mais c'est aussi trouver de l'emploi. Là, je parle pour les adultes, puisque... On est la mission locale, mais ce forum, cet événement, on le fait en partenariat avec tous les partenaires de l'emploi, dont France Travail, dont l'autre mission locale donc du Pays Salonnais, et également tous les acteurs de l'emploi, donc Cap Emploi, le pôle insertion du conseil départemental. Voilà, et c'est un forum qui est financé par la métropole Aix-Marseille-Provence, voilà, qui nous est financé depuis 2005.
Et donc là, ça concerne tous les âges ?
Ça concerne tous les âges, voilà, de 16 ans.
Ben,
aujourd'hui, à 77 ans, hein, j'allais dire, non, mais parce que c'est malheureux, mais on voit aussi de plus en plus de retraités aussi sur ce forum, qui viennent chercher un complément d'activité.
Et
c'est
oui.
aussi, on parle des jeunes, mais voilà.
Alors, j'en profite et j'en connais quelques-uns, je les salue et je trouve ça tellement, il y a presque de l'émotion quand je le dis, mais il y a des gens qui ont travaillé pendant 40 ans, qui ont vraiment travaillé et qui sont obligés d'aller à 65 ans, 70 ans, dans différents pour avoir 500 ou 600 euros. Alors, c'est que 20 heures. C'est déjà énorme quand on est. Mais même d'aller gratter 10 ou 15 heures par semaine pour avoir 500 euros, ne serait-ce que pour manger.
Ah, on parle pas de. C'est ça, hein, c'est pas du confort.
Voilà,
hein.
C'est pas pour aller aux Bahamas chaque année. C'est vraiment pour manger. Et ça, c'est regrettable. Et je le rappelle, et je fais pas de clichés réducteurs avec ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ont travaillé régulièrement. N'ont pas eu la chance d'avoir un ascenseur social au sein de l'entreprise ou autre et qui galèrent, donc c'est important de le rappeler. À l'époque, quand vous avez évoqué le collègue qui était venu,
Didier de Barge.
Didier de Barge, qui était venu, voilà, il parlait aussi de l'alternance, et on le sait, on a des chefs d'entreprise qui restent parfois jusqu'à 60-70 ans, mais il n'y a pas que des chefs d'entreprise, on a des ouvriers qui prolongent quand la convention le permet, parce que c'est la retraite, ils savent qu'ils vont toucher 1 000 euros de retraite, et là, ils sont à 1 600, 1 700, ils ne veulent pas perdre ces 600, 700 euros qui leur feraient un vrai creux dans le panier financier. Donc, c'est important de le rappeler. Les objectifs du forum, vous l'avez évoqué. Lauric, toi qui, justement, vois au quotidien ces jeunes-là, emploi et alternance, concrètement, ça veut dire quoi, alternance, concrètement ?
Alors, l'alternance, pour les jeunes que j'accompagne, ça va être une solution. Une solution qui leur permettra, à ceux qui veulent entrer dans la vie active, mais qui n'ont peut-être pas l'âge aussi, parce qu'à 16 ans, on peut travailler, mais c'est toujours très compliqué. À 17 ans, ça l'est toujours un petit peu moins, mais ça l'est quand même. Et là, ça leur permet de mettre justement le pied à l'étrier, donc en ayant une activité, en connaissant le monde du travail, justement, et avec cette obtention en fin de cycle pour avoir un diplôme. Donc c'est du diplômant, en même temps ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent et on accède petit à petit à ce besoin d'autonomie.
Un mot là-dessus, Lauric, je ne sais pas si tu as les chiffres, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais quand tu parles d'alternant, est-ce qu'on parle après le bac ou on peut être alternant avant le bac?
Ah, oui,
ma question est
belle, en fait,
j'ai la réponse, mais je me fais... Oui, voilà,
on va être sur ce...
Oui, CAP, CFA, on est dans de l'alternance.
Alterner, justement, l'emploi et la formation. Donc, la formation qui est scolaire, hein, bien sûr.
Et en fonction de l'âge, J'imagine que le que l'aspect financier
oui.
Est enfin,
oui, il y a des grilles en fait, hein, qui vont de 16 ans à plus de 25 ans, les niveaux également, et on est payé, donc c'est conventionné, hein, en fonction de notre âge et du niveau d'études.
Ah oui, ok.
Et on peut faire donc de l'apprentissage. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus sur du contrat d'apprentissage. Le contrat de professionnalisation, ça, il a été beaucoup réduit et s'adresse aujourd'hui plus aux adultes, aux personnes de plus de 26. Donc pour les jeunes, c'est des contrats d'apprentissage. Et on peut faire de l'apprentissage du CAP à, jusqu'à ingénieur. Voilà.
Génial.
Et on peut aussi avoir un CAP. Ben, je connais un jeune. Donc, il a commencé par un CAP logistique magasinage et après, il a fait un bac plus 5 en commerce international. Enfin, il a évolué et voilà. Donc, on peut aussi évoluer tout par la voie de l'apprentissage.
Ça c'est magnifique. Voilà. Peut-être un mot, il nous reste 7 minutes, on peut poursuivre. On a évoqué les objectifs. Il y a aussi les espaces, par exemple, pour faciliter l'insertion professionnelle. Laurie et Marie-Laure avec l'espace apprentissage, recrutement. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est. Puis on a même aussi un domaine incontournable, c'est les espaces forts de l'innovation aussi, pour l'innovation. Dites-nous un petit peu plus.
Alors, donc, ce forum emploi et alternance, il va y avoir un gros espace entreprise, puisqu'il y aura 42 entreprises présentes. Voilà, tout secteur d'activité confondu, donc en passant par le bâtiment, l'industrie, le tertiaire, le commerce, le nettoyage, l'aide à la personne, le médical. Enfin, on a essayé de couvrir vraiment la logistique, on a essayé de couvrir tous les secteurs. Donc, c'est plus de 500 postes à pourvoir, que ça soit en emploi classique, CDD, CDI, intérim, ou en contrat d'apprentissage, justement. Donc là, on vise plus les jeunes. Pour la première fois, on a décidé de le faire le mercredi 30 avril, de 14h à 17h, donc à Berlétan, pour toucher justement les lycéens. Et voilà, puisqu'ils sont pas à cours l'après-midi.
D'habitude, c'est le matin.
Voilà.
Pour toucher les lycéens, mais pas que. Voilà, c'est encore ouvert aux adultes.
Ça permet d'élargir la palette. Voilà, c'est intéressant.
On a un espace CFA. Donc là, les CFA, c'est tous les organismes de formation qui proposent de l'apprentissage et qui viennent avec des entreprises.
Pour avoir une idée, c'est le boulanger, le pâtissier, le maçon, l'électricien.
L'ingénieur aussi, voilà. L'informaticien, voilà, c'est très large. Et pareil, c'est donc dans l'ensemble de nos CFA, ça va du CAP au diplôme d'ingénieur, donc voilà, au bac plus... au bac et plus.
Justement, je veux revenir là-dessus. Juste, je fais une petite aparté. Effectivement, en mission locale, on se dit toujours, on a cette image de c'est des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui galèrent un petit peu. Mais on a des jeunes qui ont des bacs plus 3, des bacs plus 5, et qui, eux, ont une autre difficulté, c'est se vendre, en quelque sorte, sur le marché. Donc, on travaille avec eux sur d'autres points. Voilà, c'est vraiment, je voulais fermer cette parenthèse, mais simplement annoncer que on n'a pas que des petits diplômes. Il y a de tout. Vraiment, tous les jeunes sont représentés à la mission locale.
Alors, tout ceci est fait à Berlétan. C'est la salle polyvalente qui se trouve à la rue Jean-Christophol. Alors, cette salle, alors, est-ce qu'elle fait 100 mètres carrés, 200 mètres carrés? Comment est-elle?
Elle est grande. Elle peut accueillir facilement 500 à 600 personnes.
D'accord.
Sur le flux.
Un grand parking, je présume.
Un grand parking, des places de parking à proximité si le parking est plein.
D'accord.
Voilà, et donc elle nous est prêtée, puisque le forum aussi, il est fait aussi en partenariat avec la ville de Berlétan. Et donc, c'est la municipalité qui nous met à disposition cette salle, et on les en remercie aussi aujourd'hui.
Alors, cette salle, bon, vous allez avoir donc des sociétés qui vont être installées tout autour. Vous allez peut-être avoir des croissants ou du café ou quelque chose. Comment
Bien
ça va
sûr,
se passer?
Un accueil café pour les partenaires qui seront présents. Et après, pour que le forum se soit le plus complet possible, donc il y aura bien sûr la rencontre avec les employeurs, mais on propose également des animations tout au long de l'après-midi, avec notamment une entreprise qui avec un simulateur de bus pour justement pouvoir... tester et se confronter à la conduite de bus et que ça reste ludique et valoriser le métier, voilà, qui est aussi en carence. Après, je te laisse proposer les autres ateliers.
Alors, on a des ateliers, par exemple, ça va être une personne qui arrive avec son CV, mais la personne n'est pas tellement sûre, personne n'a pu l'aider à le travailler. On a un atelier qui s'appelle « Teste ton CV », où là, on va pouvoir par le biais d'une sorte de QCM, tester son CV, un atelier pour refaire son CV, où là, on aura des conseillers et des conseillères qui seront là pour vous aider justement à retravailler ce CV rapidement pour qu'il soit utilisable par le, sur les stands avec les employeurs. On va avoir également un studio, le studio de la bonne idée, qui sera également présent sur scène.
Ah, c'est bien.
On va recevoir...
C'est une très bonne idée.
Des élus, des entreprises, des centres de formation, tout ça sous un aspect toujours de l'essence de ce studio, c'est-à-dire ludique, et en même temps pour proposer des solutions et expliquer ce qu'est l'emploi, ce qu'est la recherche d'emploi. Il y aura le parrainage, voilà, tout ça, ce sera des petites surprises qu'on va mettre en place. Globalement, il y en aura un petit peu pour tout le monde, et je vais laisser alors, Marie-Laure proposer quelque chose de,
moi,
d'innovant.
Moi, j'arrive sur le parking.
Allez-y, pardon.
Je ne connais pas. Je suis perdu, hein. De toute façon, c'est la réalité. Je rentre. Est-ce qu'il y a des hôtesses ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont me diriger et qui vont m'aider ?
Des cracheurs de feu, des jongleurs. Alors, effectivement, pardon Marie-Laurent, je parle peut-être un petit peu
non,
trop.
Mais
non, ça va. À l'accueil, vous aurez effectivement des personnes, donc des salariés de la mission locale qui seront là pour vous guider, vous donner un plan, vous orienter. Même à l'intérieur du forum, il y aura toujours quelqu'un qui sera, on pourra le reconnaître, il aura un veston bleu, donc vous pourrez le reconnaître par ce biais-là. Et on sera toujours là pour vous guider, vous aider, vous amener vers un employeur que vous recherchez, travailler un petit peu avec vous l'entretien. Vraiment, on est là
je
pour
vois que le
les demandeurs
est
d'emploi.
Plus que travailler, il est complet.
Alors, on est vraiment, encore une fois, sur l'aller vers. Voilà, puisque aller dans un forum, comme vous le dites, ben, des fois, on se rend compte, hein, après c'est l'expérience qui parle, ben, les demandeurs d'emploi, ils arrivent et en fait, ils savent, c'est tellement grand, il y a tellement de stands qui sont perdus. Donc nous, notre rôle...
C'est pour ça que je vous posais cette question, parce que c'est important pour la personne qui va venir de dire, bon, ben, quand je suis là... On m'écoute, on comprend que j'y comprends rien, enfin deux mots, hein, on m'aide.
Voilà, c'est ça, c'est aller vers lui demander ce qu'il recherche et l'orienter vers les stands qui les intéresseront le plus et voire même l'accompagner. Voilà, on est encore là-dedans.
Des fois dans des salons, quels qu'ils soient, vous rentrez, vous déambulez. Vous voyez rien,
on ressort,
et vous sortez. Ouais.
Voilà, c'est pour ça que sur cet événement, c'est toute la mission locale Estiétans de Berre et celle du Pays Salonnais et les autres partenaires de l'emploi aussi qui sont mobilisés dessus et tous les accompagnateurs seront aussi.
Ça demande un nombre de personnes à peu près important, ça vient à 30 personnes, non?
C'est ça. C'est ça, facile. Hein? Une trentaine de personnes,
oui. Eh oui.
Ah mais c'est un plaisir par contre, hein, c'est un plaisir d'accompagner ces demandeurs d'emploi et de leur trouver des solutions, quoi, de leur proposer.
Surtout que dans la vie, quand on fait les choses, c'est déjà dur et difficile, mais quand on fait en sorte que tout marche, c'est encore mieux. C'est idiot ce que je dis peut-être.
Non, non.
Mais j'ai tellement connu moi des endroits où je suis allé où mais qu'est-ce que je fais là?
Non, mais c'est ça, c'est une réalité. Donc, c'est ce qu'on évitera. Hein.
Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien, c'est que les entreprises soient bien contentes, les organismes de formation soient bien contents, mais surtout, ben, les visiteurs soient bien contents, ils ressortent avec quelque chose. Alors, même si ce n'est pas un emploi à la clé, qu'ils n'aient pas perdu leur temps, qu'ils aient pu échanger, qu'ils aient pu découvrir des métiers, qu'ils aient pu apprendre des choses ou repenser peut-être un CV ou une approche envers l'entreprise. Voilà.
Alors, moi, je vais venir chez vous. Encore faire.
On vous y attend.
Mieux que ça. Est-ce qu'avant, je peux savoir quelles sont les entreprises installées ?
Mais quelle question, alors, celle-là ?
Sur Internet ou je ne sais pas.
Ah. Oui, sur les réseaux, ça y est. Il y a les offres d'emploi sur les réseaux, ben sur le Facebook de la mission locale.
Alors, on a un Facebook, mission locale Estiétans de Berre. Vous pouvez retrouver effectivement la diffusion des offres d'emploi des employeurs. On a également la même diffusion sur Instagram, toujours mission locale Estiétans de Berre. On va en parler lors de nos émissions, justement, de la bonne idée sur Twitch, les jeudis à partir de 11h jusqu'à 13h. Où chaque jeudi, on a un créneau pour notre émission et on parle effectivement de ce forum. Voilà, après auprès des missions locales, hein, directement en nous contactant, puisqu'on a parlé un petit peu du territoire qu'on couvrait, et dans chaque ville vous avez une mission locale, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à pousser les portes, à nous contacter.
Donc on
par
peut
téléphone.
Avant prendre les informations nécessaires, disant il y a telle ou telle entreprise qui pourrait m'intéresser, etc. Et ces entreprises, alors, sont de quelle taille? Petites, grandes, toutes
mélangées? Il y a de tout. Il y a de tout, voilà. Il y a des entreprises comme le Crédit Agricole, Eiffage, voilà, qui sont des grosses entreprises, mais il y a aussi des petites entreprises locales, des PME, mais qui recherchent, voilà. Et on est resté, par contre, sur, on a voulu jouer sur la diversité des secteurs d'activité. Et après, sur le local aussi. Puisque,
sûr,
voilà, rechercher un emploi, voilà. Donc, c'est des entreprises qui se situent, on va dire, entre, aux alentours.
On va pas faire du travail pour Paris, quand même.
Voilà. Non, mais ça se situe vraiment aux alentours de Vitrolles. Voilà, essentiellement, c'est entre, on va dire, Salon et Vitrolles. Après, il y a beaucoup d'entreprises, je pense, par exemple, Noroto. Ou Aldi, le groupe Aldi, en fait, qui recrute pour plusieurs magasins. Donc après, la personne qui vient de Miramas ou de Foss trouvera aussi du travail, puisque c'est des chaînes qui cherchent de partout. Voilà.
Non, je vois que quand
parfait.
Même le sujet
merci
est bien
Richard,
travaillé
on va devoir conclure. Voilà, merci Richard, on va devoir conclure l'émission.
Bravo.
Touche à sa fin. C'était un vrai plaisir de vous avoir. En tout cas, vous avez représenté fièrement la mission locale et ce forum qui, on le rappelle, aura lieu le mercredi 30 avril sur le forum avec comme thématique extrêmement accrocheuse, à savoir le forum emploi et alternance. Donc merci Laurie Santiago d'avoir été avec nous en tant que conseiller en insertion sociale et professionnelle. Et je remercie évidemment Marie-Laure Florent qui est présente en tant que responsable du pôle ressources entreprises. Donc, vous les jeunes qui ont quelques doutes sur l'avenir, n'hésitez pas à vous rendre au forum emploi, j'allais dire les jeunes et les moins jeunes. C'est le 30 avril, c'est J-7, il faudra vous y rendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous,
merci
à tous les deux, à nous avoir accueillis. Plaisir partagé.
Ben, plaisir partagé. 9h28 sur les ondes de Radio Galère, pause musicale qui va nous permettre de faire le petit lien avec le prochain dossier, à savoir notamment un auteur-compositeur qui nous parlera notamment de musique et de chansons engagées, les chansons des enfants des quartiers nord. Mais avant ça, c'est la pause musicale. C'est une version très atypique et très spéciale. Lisa Dan, Voyage, Voyage. Je salue la personne qui se reconnaîtra et je l'embrasse. Lisa Dan, Voyage, Voyage de Desireless, évidemment. 88.4, c'est la pause. Encore merci et au plaisir de vous revoir. Restez fidèles à Radio Galère, on revient juste après ça.
Au-dessus des vieux volcans glissent des sous les tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan, voyage, voyage plus loin.
Merci. Merci beaucoup.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. consacré à l'actualité locale. C'est le dernier dossier de la matinale sur les ondes de Radio Galère qui va nous permettre tout simplement de parler du volet culture et du volet de la chanson. Notamment, c'est sur les ondes de Radio Galère 88.4. Richard est avec nous. On va donc saluer nos invités du jour qui sont autour du plateau. Voilà, je vais évidemment les présenter. Daniel Baum, auteur, compositeur, qui représente l'association Terre de Chansons, est avec nous. Il est accompagné de Nouria Nehari, qui a participé aux créations de chansons du collège d'Albert Camus lorsque Daniel Baum était donc professeur de musique. Elle est créatrice en maroquinerie sur Marseille en parallèle. Aujourd'hui, on va parler du volet de la culture, de la chanson, de l'engagement avec les enfants, et notamment de cette actualité qui vous fait venir sur les ondes de Radio Galère. C'est évidemment le 9 et 10 mai à l'Ouvre-Boîte. C'est quoi l'Ouvre-Boîte? C'est un théâtre qui se trouve sur Aix-la-Provence et qui permet justement une scène. Et ça s'appelle Canciones Urgentes. C'est donc le 9 et 10 mai. Avant ça, on va vous saluer, évidemment. Et on va être galant, Daniel, vous n'allez pas m'en vouloir, de saluer dans un premier temps Nouria Nehari. Bonjour Nouria.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Galère. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. En tout cas, de recevoir des invités qui ont à cœur de venir chez nous. Bonjour, Daniel Baum, auteur-compositeur.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir et je tiens à le signaler. Je vous remercie parce que souvent, c'est nous, journalistes, animateurs, qui faisons la démarche, en tout cas, de solliciter les structures. Et puis parfois, c'est aussi des structures qui nous sollicitent, donc que ce soit des auteurs, des syndicats, des associations, des professeurs. Et là, pour le coup, vous avez fait cette démarche-là. Donc nous, on est ravis d'avoir répondu favorablement. L'histoire fait que on avait en plus un créneau qui s'était libéré alors qu'on était programmé pas avant le mois de juin, on aurait pu vous accueillir. Et puis donc, on a une date qui correspond très bien au tremplin médiatique, puisque du coup, dans 15 jours, il y a cet événement qui aura lieu à l'Ouvre-Boîte. Alors, Daniel Baum, on veut tout savoir déjà. Auteur-compositeur, vous êtes un ancien professeur de musique. Vous étiez notamment au collège Albert Camus. C'est là où il y a eu cette connexion, notamment, je suppose, avec Nouria Nehari, qui a participé aux créations de chansons. Et on va y venir par la suite. Parlez-nous un petit peu de votre univers et de votre association Terre de Chansons. On veut savoir ce qu'elle fait, comment, le fonctionnement, l'historique, l'ADN aussi artistique. Parce que professeur de musique, ben, ça veut dire beaucoup de choses à la fois et peu si on s'en tient que à une spécialité. Et justement, la musique, c'est large et riche, Daniel Baum.
Oui, alors professeur de musique, effectivement, c'est un métier très ouvert. Et personnellement, j'ai toujours été beaucoup centré sur la chanson, sur l'intérêt pour la chanson comme moyen d'expression, comme moyen de sensibilisation, comme moyen de prendre la parole aussi. Et quand j'étais prof de musique au collège Albert Camus dans les quartiers nord, là, nous remontons à quelques années, hein, Anthony,
on,
ça
on
nous
se
amène...
serait pas permis, Daniel Baum.
Ça nous amène, non, mais on va le lire, on est dans les années 80. Et oui, parce que les chansons, on va parler de chansons qui ont des histoires qui durent jusqu'à aujourd'hui, comme la chanson des enfants des quartiers nord. Mais tout ça a commencé là-bas, au collège Albert Camus, où j'ai eu toute une activité de création de chansons avec les élèves. Et pour répondre à votre question sur Terre de Chansons aussi, c'est une association qui soutient toutes sortes d'activités liées à l'utilisation de la musique comme outil d'expression, d'émancipation à travers des projets musicaux. Voilà ce qu'on peut dire rapidement Terre de Chansons.
Terre de Chansons, on peut rappeler peut-être l'historique, ça fait plusieurs années maintenant que cette association œuvre, on peut l'indiquer
Oui, on peut dater Terre de Chansons de à peu près 2010.
Oui, c'est que j'allais dire
là.
Une quinzaine d'années, c'est ce que
voilà.
J'avais vu.
Ouais. Oui, oui. Mais les activités autour de la chanson, elles n'ont pas cessé, hein, puisque je suis, comme vous l'avez dit, auteur-compositeur. Et on va évoquer donc des activités assez presque historiquement datées, mais qui continuent et l'actualité. Aussi,
exactement.
Hein, parce que là, on va parler, je pense, du film et tout ça.
Tout à fait, du film. On va même écouter une partie de cette fameuse chanson des enfants des quartiers nord. Nouria Nehari, parlez-nous un petit peu aussi de cet univers. Pour le coup, vous, il n'y a aucun lien avec votre métier, en tout cas, sur la maroquinerie. Mais justement, on y vient sur la création des chansons. Comment vous êtes rapproché de ça, rapproché de cet engagement, rapproché de cette sensibilité artistique et cette connexion avec Daniel Baum?
Tout d'abord, moi j'étais donc élève au collège Albert Camus. On sentait une très très belle énergie. On y est allé comme naturellement, en fait, puisqu'on nous demandait d'écrire nos vies quotidiennes avec la prof de français, avec tout le monde, c'est-à-dire avec tous les enfants. En ayant quand même dans l'esprit que waouh, c'était possible, cette mixité, ce travail en commun.
Il y avait un message porteur d'espoir, en tout cas.
Mais bien sûr, parce que moi, si on revient dans le contexte des années 80, c'est que moi, je suis née dans un quartier qui s'appelle La Paternelle, qui était complètement fermé. Il n'y avait que des Algériens et quelques familles gitanes. Pour moi, cette ouverture, elle nous a permis carrément de nous prendre par la main, de nous dire vous êtes légitime en fait dans ce pays. Ça va jusque là.
Vous avez votre mot à dire, et puis que l'aspect cosmopolite, la richesse des différentes cultures, c'est une force pour la nation.
Mais absolument. Et c'est cette chance là, il fallait la saisir. Et puis on l'a saisie, bien sûr, parce qu'on était motivés, parce qu'on avait plein de choses à dire, parce qu'on avait des super belles voix, parce qu'on avait des super textes.
En disant ça, elle se retourne vers Daniel. Est-ce que vous avez été élève de Daniel Baum ou élève de Daniel Baum?
J'étais élève de Daniel Baum.
Quel genre de professeur de musique était Daniel Baum?
Comme tous les profs qu'on aurait rêvé d'avoir, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert, sans jugement, puisque même si enfant qu'on était, on sentait quand même qu'il y avait une hostilité chez certaines personnes et dans certains domaines. Ça passait. On était accueillis comme nous l'étions, c'est-à-dire avec une histoire, avec un passé et avec surtout une vie quotidienne et avec surtout un nœud qui se dénouait grâce à ce travail collectif, parce que là tout le monde était impliqué.
Génial. Jolie louange à votre égard, Daniel Baum.
Oui, j'en suis très touché. Mais je confirme que, avec mes collègues enseignants, dans ces projets que nous menions ensemble, c'était dans un esprit, comme on dirait, interculturel, de partage des cultures, et puis de considérer les jeunes comme porteurs de culture, comme porteurs d'idées, comme porteurs de créativité. Et c'est là-dessus que nous avons parié, en quelque sorte. Et on a quand même écrit 28 chansons. J'ai là sous les yeux la pochette du disque « Les enfants des quartiers noirs brisent la glace ». 28 chansons écrites avec les jeunes, et des chansons qui parlent de leur vie. Il y en a une que je vais bien sûr citer, c'est la fameuse chanson des enfants des quartiers nord qui est née dans ma classe, comme ça. Et Nouria, tu avais même participé à l'écriture de cette chanson. Vous savez, si, je suis sûr que si j'entends le refrain, vos auditeurs vont se dire, je connais bien ça. Nous sommes les enfants des quartiers nord. Et à pied, ça fait loin jusqu'au vieux port. Je vous ai dit, c'était écrit en 82, ça. Mais cette chanson, depuis, elle 82. A été chantée dans les écoles, dans les centres sociaux. Elle reprise par Sosomanes, elle a été reprise.
Oui, exact. C'est ce que j'allais vous dire, par le rappeur Sosomanes, le rappeur marseillais. Justement, on y vient. Vous parlez de les chansons des enfants des quartiers nord. On va écouter justement une partie de cette chanson-là sur les ondes Radio Galère. Et puis on revient évidemment sur le dossier et l'actualité du 9 et 10 mai. Et 10 mai. Écoutez bien ça.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
À l'endroit où se trouvent.
Construire une belle villa.
Si tu veux te construire.
Bon, voilà. Ça nous permet de... Voilà, c'est évocateur et ça rappelle des souvenirs.
C'est évocateur, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis retourné dans les classes à l'école de la Morlette, au collège Massenet, il y a 2 ans, et que les jeunes ont réécrit de nouvelles paroles. Les enfants de Massenet ont écrit « Dans mon quartier, génial. Je vois un monde cruel. Il y a de la violence dans les ruelles. Un staff américain dans le quartier, il est venu vers nous pour nous croquer. » Ils ont écrit de nouvelles paroles sur un rythme de rap, mais en s'inspirant de la prosodie de cette chanson. Et ça, donc il y a toute une vie qui continue avec cette chanson.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Nouria ? Et qu'est-ce que ça inspire justement ces jeunes-là ? On parle de chansons engagées, vous dites résister en chanson d'un album, c'est ce mot-là. Il y a un message d'engagement citoyen, on pourrait parler, j'ai même écouté une interview vous concernant sur une sorte d'éducation populaire en fait, qui vous est propre, qui vous est... auxquels vous êtes attachés, c'est ces messages-là qui sont véhiculés ?
C'est surtout un témoignage, c'est surtout un engagement, c'est surtout de l'espoir, c'est surtout une ouverture, parce que moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Je vous ai dit, je suis née à la paternelle dans le 14e arrondissement, et un jour j'ai été stupéfait d'entendre dans les quartiers sud des enfants qui étaient vraiment qui chantaient justement les enfants des quartiers nord, et ça m'avait, je me suis sentie mais très fière et très et je me suis dit waouh, c'est génial, donc voilà.
C'est vrai que la culture est un vecteur de passage de toutes les cultures, de tous les c'est quelque chose que peut-être dans les entreprises on devrait faire, vous voyez, pour rassembler des gens, les mettre autour de la culture quelque part, 10 minutes par jour peut-être, vous voyez, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de différence, c'est là qu'on se rend compte que tout est beau, enfin, chacun exprime ses difficultés, bien entendu, comme vous avez dit, c'est un témoignage, hein, c'est pas... Voilà, mais voilà, c'est une réussite complète de faire ça. Ça rapproche les gens et tout ce qui rapproche les gens, voilà, la culture, le cinéma.
Chacun exprime ses richesses aussi. Enfin, ouais, c'est plus que les difficultés. Oui, toutes les richesses dont ils sont porteurs. Alors, si je peux rebondir sur cette question, en fait, j'ai dit tout ce qui se passait actuellement, mais là. Nouvel événement exceptionnel, on apprend à Terre de Chansons qu'il y a un professeur de musique en Argentine, Cordoba, qui crée des chansons avec des enfants, des écoles, des chansons à résonance écologique, parce que là-bas où c'est en milieu rural et les enfants reçoivent les pesticides que les envoient, qu'envoient les avions qui
pulvérisent. Donc c'est aussi un message de paix, un message d'espoir, hein, c'est ce que disait.
Complètement. Et ce professeur, il s'appelle Ramiro Lescano. Il a fait tout un travail donc avec de création avec plusieurs écoles qui a abouti à un grand spectacle avec une espèce de Woodstock là-bas et qui a abouti aussi à un film, et c'est ce film que nous allons projeter à l'Ouvre-boîte et qui est un film magnifique qui est primé plusieurs fois. Voilà, ça c'est. Alors, il se trouve que nous avons pris contact et nous sommes en lien. Nous avons passé plusieurs visioconférences avec Ramiro et le réalisateur du film. Et ils vont venir à l'Ouvre-boîte.
Ils vont venir le 9 et 10 mai à l'Ouvre-boîte.
Et on va chanter ensemble.
Ça c'est quand même génial. Comment s'est passée la connexion rapidement ? Parce que j'imagine que c'est quand même pas évident de. Bon, il est sur différents secteurs géographiques et il sera sur Paris, il sera sur d'autres pays
tout
également.
Tout à fait.
Mais en tout cas, il a fait le choix de venir le 9 et 10 mai. C'est quand même génial.
La connexion s'est faite parce que il se trouve que Marie-Laure Cadard, la présidente de l'association, a assisté à Biarritz à la projection de ce film. Il y avait le réalisateur, ils ont pris contact, ils ont dit on va rester en lien, et voilà comment nous avons fait ensuite plusieurs visioconférences. Et hier, avec Ramiro à 10 000 km de là, on était en train de répéter la chanson des Quartiers Nord, et moi de répéter sa chanson Conciencia de Amor, qui est un très beau texte sur la conscience de l'amour, écrit par Ramiro.
Et on va l'écouter justement, une partie Conciencia de Amor, bon, mais conscience de l'amour évidemment. Je propose de l'écouter et on revient juste après ça, et puis on évoquera aussi l'ouvre-boîte évidemment.
Más allá de idiomas y fronteras, más allá de toda religión. Juntos soñando un nuevo sueño que siempre brillará, siempre brillará, siempre brillará. ¡Vamos!
Toujours en direct sur les ondes de Radio Gala 88.4, c'était Canciones, Conciencia de Amor. Elle est, je trouve qu'elle est géniale.
Elle est vraiment très belle. Moi, je suis très
ému. Magnifique.
À écouter ses voix d'enfant. Puis j'ai je sens une totale fraternité avec le travail de Ramiro quand j'entends ses voix d'enfant. Parce que moi, je continue à faire chanter des chorales d'enfants. Là, j'ai écrit un nouveau spectacle qui est chanté par plein d'enfants en France.
Parlez-nous de ce nouveau spectacle.
Il s'appelle On n'arrête pas les oiseaux. Il a fait l'objet d'un livre disque. Et, nous l'avons donné en Bretagne dans plusieurs collèges et aussi dans les Bouches du Nord, dans le Var, voilà, sur le parcours d'un jeune migrant.
Génial. Richard, peut-être
des chorales de combien à peu près, parce que j'ai vu que c'était très nombreux. Combien de d'enfants dans la chorale
Dans les chorales, bon, alors c'est pour le spectacle dont je parle, il y a des chorales de plusieurs collèges qui se réunissent et on avait, à Aix-en-Provence, au Sismic, on avait 200 enfants sur scène.
Rendez compte, hein.
Et pareil, en Bretagne, c'est chaque fois 150 à 200 enfants
énorme,
qui chantent.
Hein.
Oui, oui.
Génial.
Et qui chantent l'importance de l'accueil, en l'occurrence.
Exactement. On n'arrête pas les chansons. Alors on y vient. Le 9 et 10 mai, que va-t-il se passer à l'Ouvre-Boîte à Aix-en-Provence? Et un mot sur l'Ouvre-Boîte, qui est un lieu sympathique. On veut tout savoir d'un album.
Alors bon,
Nouria, n'hésitez pas de compléter, évidemment.
L'Ouvre-Boîte, d'abord, c'est un lieu assez fantastique. C'est un lieu de création et une scène de proximité. C'est un lieu d'artistes géré par des artistes. La compagnie s'appelle le Théâtre du Maquis. Et le lieu accueille des compagnies en résidence tout au long de l'année. Et nous ferons l'immense plaisir d'accueillir donc cet événement exceptionnel. Je n'ai pas peur de le dire, parce que ce sera une très très belle rencontre où quand vous viendrez les 9 ou 10 mai à l'Ouvre-Boîte, vous pourrez d'une part voir ce film long métrage Una canción para mi tierra, qui évoque tout ce travail de Ramiro Lezcano, et aussi nous allons dans une première partie projeter un extrait de On n'arrête pas les chansons, le film de Marlière Gros, et avec Ramiro Lezcano et moi-même on va partager nos chansons. Il m'a appris le refrain de sa Conciencia de Amor, il va chanter avec moi la chanson des Cartiers. Non, on va partager plusieurs chansons.
Ça va être
une rencontre incroyable, quoi.
On sent beaucoup d'enthousiasme et j'ai envie de dire, vous allez me dire peut-être que le mot est fort, et d'amour.
Ah oui, oui, oui. Moi, j'aime le mot fraternité. Je me sens très fraternel avec ce travail qu'il fait. Et avec tous ces personnes que je rencontre à nouveau, comme Nouria, et toutes ces personnes qui ont vécu ces expériences et qui nous disent, adultes, combien ça a pu compter pour elles.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Nouria, ce qui va se passer à l'Ouvre-Boîte le 9 et 10 mai? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut voir? J'imagine beaucoup d'émotions, mais Voilà, quel est votre ressenti quand vous dites, voilà, je vais aller, vous, en tant que spectatrice, le 9 et 10 mai, et j'espère que nous, on pourra s'y rendre aussi, parce que ça me semble être quelque chose de très, très important sur la fraternité. Ça vous inspire quoi, concrètement, Nouriane et Harry ?
Écoutez, on sait que la culture, c'est une grande toile qui réunit tous les univers, toutes les cultures, et on a la preuve avec le disque des Enfants des Quartiers Nord. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que voilà, la toile, il faut l'étendre, il faut l'étendre un maximum pour qu'on puisse semer des graines comme on a semé à moi et à d'autres, et puis même ceux qui étaient avant moi, qui font qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est resté dans la mémoire.
Dans la mémoire, ça c'est intéressant, parce que tout à l'heure Daniel Baum évoquait la mémoire des années 80. Je suis aussi un enfant des années 80, donc 40 ans après, on a peut-être, je suis né en 84 pour la petite histoire, et il est clair que la mémoire collective, elle est souvent d'ailleurs associée à des chansons, à des souvenirs, à des moments de partage. Alors moi, ça n'a rien à voir, mais à l'époque, on avait fait un spectacle au Vélodrome. Bon, c'était Michael Jackson, c'était autre chose, mais ce spectacle-là, je crois que c'était 89, 90, on s'en rappelle encore, et on se rappelle en fait de l'univers et de ce que ça dégageait comme chaleur humaine, comme sensibilité, comme émotion. Et c'est aussi ça, la musique, je suppose, je ne suis pas du tout un spécialiste de la musique, mais en tout cas, c'est les émotions recherchées, au-delà du message d'espoir.
C'est faire vivre aux jeunes des moments de création, de production, qui montrent qu'ils sont capables, que nous, on est tous capables de créer, en fait, et d'inventer, pour inventer nos vies.
Et en plus, avec très peu de moyens, et quand on voit ce que c'est aujourd'hui le disque des Enfants de Quartier Nord, pour moi, c'est... Quand je réécoute les paroles, des paroles gaies, des paroles tristes, comme les flics nous font monter dans les fourgons et nous font ressortir dans le bain à coups de bâton, quand on l'a vécu et que ça reste encore et on l'entend encore aujourd'hui, c'est très très bien.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, Douria, que sur Marseille, il y a quand même des choses exceptionnelles par rapport à d'autres villes? Vous voyez, ça, si vous voulez, est-ce que
Marseille est peut-être pionnière sur le côté cosmopolite, sur les échanges, sur le partage? Est-ce que vous le ressentez, les quartiers nord?
Que vous ne sentez peut-être pas ailleurs, je ne sais pas. Bon.
Bien sûr, il y a une telle richesse sur Marseille, voilà. de culture, Oui, je reprends le mot interculturel auquel je suis attaché. Mais la chanson des quartiers nord, Nouria, on l'entend même dans les mi-temps au Vélodrome, paraît-il.
Génial. ça, c'est génial. Si en plus c'est...
Bon, alors, pour Nouria, revenir à l'ouvre-boîte, peut-être, oui. Alors, il est important que vos...
Il nous reste 5 minutes sur les ondes de Radio Galère.
Bon, il est important que vos auditeurs
aient bien
tous les éléments. Hein. Oui. C'est donc à Aix-en-Provence. L'ouvre-boîte, c'est 13 rue Joseph Jourdan, et vous pouvez le retrouver si vous tapez sur un moteur de recherche l'ouvre-boîte Théâtre du Maquis, vous trouverez la billetterie. Il est important de réserver car la salle a un nombre limité de places, et moi je serais vraiment très heureux si certains de vos auditeurs peuvent se joindre à nous. Je vous dis, ça va être un moment...
Mais c'est l'objectif.
Assez fort, voilà. Donc ça s'appelle « Canciones Urgentes, résister en chanson ».
Résister en chanson, voilà tout le message qui est développé. Il y a une belle programmation au sein de ce théâtre.
Et vous verrez un beau film.
Oui, alors un mot sur le film. Parce que vous évoquiez Mauricio Albornoz Iniesta, c'est bien ça. Il y a Ramiro Rescano, Daniel Baum évidemment, et Marielle Gros.
Pas sur le même film, hein.
Non, je parle de deux films,
on est bien d'accord.
Sur les chansons, et justement la projection de ce film argentin qui s'appelle Una canción para mi tierra, qui a été en tournée en France et en Europe. Et je veux dire, ce n'est pas rien. Hein, c'est quelque
chose... Oui, là, Ramiro et le réalisateur reviennent de Pau. Hein
et on aurait été ravis de les avoir aujourd'hui, en tout cas.
Oh bah, et oui, c'était pas possible, mais ils reviennent donc, ils font toute une tournée pour présenter ce film. Et le film, même du point de vue cinématographique, il faut pas croire c'est une histoire de petits témoignages de travail avec les enfants. C'est très dense, c'est magnifique, c'est très fort. Musicalement, c'est très fort, mais c'est très fort dans la réalisation cinématographique. Il a été primé plusieurs fois de ces films, dans plusieurs festivals.
C'est juste génial. Un mot également sur les horaires, les réservations, la billetterie. Est-ce qu'on a pas mal d'éléments, puisqu'on a deux soirées, Denis, hein, Daniel.
Alors, l'horaire, c'est vendredi 9 mai à 19h. Et ça sera toute la soirée, hein, puisqu'il y a une première partie. Ensuite, on offre un buffet aussi.
Génial.
Puis la projection du film et les questions qui pourront être posées au film. Donc, le vendredi 9 mai à 19h, le samedi 10 mai à 19h. Que puis-je donner encore comme information? Le téléphone, peut-être?
Oui, les réservations. Allez, alors, vous tapez Louvre-Boîte Aix, puisqu'il y en a un à Marseille, et vous avez tous les éléments qui se réfèrent à ce projet-là.
C'est cela.
Et vous avez voilà les billets web, puisque c'est Terre de Chansons, au final, qui convie à cet événement exceptionnel à Louvre-Boîte, avec la projection du film argentin Una canción para mi tierra. Et donc, rue Joseph Jourdan, à Aix, vous avez les places, vous pouvez choisir la soirée du 9 mai qui démarre à 19h pour boucler a priori 23h minuit. Idem pour le lendemain. Et vous avez quand même des tarifs qui sont, c'est important de le rappeler, extrêmement accessibles. 12€ pour la soirée. C'est le prix.
Et le téléphone, c'est le 04 42 38 94 38.
Exactement. Merci mon cher Richard. Ouais. C'est www.théâtredumaquis.com. Et on amène les étudiants de Aix-Marseille Université, 3€. Il y a un tarif qui a été présenté à 3€ pour les étudiants. Donc, c'est tout simplement génial. Il nous reste une petite minute pour conclure notre matinale. Et on est ravis, en tout cas, de la conclure avec vous, Nouria Nehari et Daniel Baume, pour nous parler de Terre de Chansons, pour nous parler de cet événement le 9 et 10 mai à Louvre-Boîte. Je vous laisse le dernier mot à chacun pour conclure. Et puis, nous, on se retrouvera la semaine prochaine à la même heure, de 8h à 10h. Et on démarre par vous, Daniel Baume, auteur-compositeur.
Eh bien, je voudrais revenir encore sur le. Je vais revenir sur le film auquel a participé Nouria, qui s'appelle On n'arrête pas les chansons, film de Marielle Gros. Et il y a plusieurs témoignages. Il y a le témoignage de Scheherazade Ben Messaoud. Il y a le témoignage de Jean-Jérôme Esposito, qui est un acteur connu maintenant sur la scène marseillaise. Et ce qui me touche beaucoup dans ce film, c'est comment ces personnes témoignent de l'importance que ça a représenté pour elles d'avoir dans leur jeunesse un appel à leur créativité et à leur prise de parole. Et je pense qu'avec Nouria, on est d'accord, comme tu l'as dit Nouria, pour que encore les jeunes d'aujourd'hui puissent au maximum prendre la parole. Qu'en dis-tu ?
Ben, tout à fait, moi je suis complètement là-dedans, puisque c'est vrai que cette expérience-là, elle m'a amené à penser fortement qu'il y a une possibilité de faire un travail en collectif, et que quand c'est fait avec autant de plaisir et d'engouement, ben il en
et
sort
de talent.
Et de talent, oui, le talent, nous on le savait pas. Aujourd'hui on le sait.
Oui.
Et ben la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ben je suis créatrice de sac à main, j'ai fait du théâtre, la culture, il faut continuer à semer des graines aujourd'hui auprès de nos jeunes enfants. Concernant le type de travail de Daniel Baume et d'autres, hein, j'imagine. Voilà.
Oui, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Nouria Nehari ses créations. Elles sont
magnifiques.
Exactement,
on pourra faire le lien évidemment avec ça, vous l'avez indiqué. Peut-être nous rappeler le lien Nouria Nehari.
Bah, c'est Nehari Création, vous tapez sur Google et il y a quand même pas mal d'articles, de reportages, etc. concernant mon travail qui date quand même de plusieurs années maintenant.
Parfait. Merci. L'émission touche à sa fin sur les ondes du 88.4. On l'a fini de belle manière avec l'association Terre de Chansons et notamment cette programmation prévue le 9 et 10 mai à Louvre-Boîte. Il faudra vous y rendre, auditrice, auditeur, 12€. Vous avez toutes les informations. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à Richard d'être mon fidèle acolyte tous les matins. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, de 8h à 10h sur les ondes du 81.4. On rappelle que cette émission sera rediffusée ce dimanche de 11h à 13h sur Nord de Galère. Donc, votre créneau vous sera 12h30, 13h. Si vous ne faites rien, vous pouvez écouter le 88.4 de la bande FM ou le www.radiogalère.org. Et puis, on vous enverra quand même le podcast d'ici la fin de la semaine. Merci à toutes et à tous. Restez fidèles au 88.4. Et au plaisir de vous revoir, Daniel, évidemment, et Nouria. C'est évidemment une première, mais c'est surtout pas une dernière. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des actualités, à venir nous voir. Merci bien. Au plaisir.
Merci.
Au revoir. Bonne journée.